Aye, aye.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant, toujours à l'heure. Roger Fringant, toujours à l'heure. Je tiens à dire, parce qu'il y avait une longue légende autour du fait que les Grignoux ne seraient pas à l'heure. Je tiens à quand même à préciser que depuis le mois de septembre, alors que je vous l'avais dit au mois de juillet, vous n'y croyez pas. Vous étiez là, ouh, 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 ouh.
Vous connaissant.
Power Solo, vous mettrez Power Solo, ça y est, ça me vient en tête. Comment dirais-je, vous étiez là, ça ne tiendra jamais. Ça tiendra. Eh ben, ça tient, malgré les aléas des parkings complets. On nous avait dit, oui, les Grignoux maintenant, c'est dans le centre-ville, dans l'hypercentre Canal B. Alors, vous savez quoi? En plus de ça, je viens de serrer la main à monsieur Robert le Magnifique, c'est une... Merci.
Pourquoi il y a ce nom de famille?
Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, eh bien, nous sommes toujours, toujours à l'heure. Et c'est quand même assez magnifique, d'ailleurs.
C'est marrant comment vous mélangez le jeu et le, les grillous, le on, quelque part. J'ai la réputation d'arriver, mais nous,
mais non, parce que, de toute façon, c'est toujours à moi que, qu'in fine, on fait porter le chapeau. Donc, du coup, autant le dire tout de suite.
On est 8 ans moins 5, on est chez vous, et que vous êtes en pyjama, on peut se dire.
Voilà, ça, voilà. Et ben voilà.
Ça, c'était avant.
Ça, c'était avant. Avant que je vous dise, désormais, Jean-Loup, nous serons toujours à l'heure et nous sommes toujours à l'heure et c'est bah, c'est super.
Voilà, à part l'émission d'avant qui gratte un peu.
Et il gratte, il gratte. Mais on leur avait vendu un peu le créneau en disant, oh, tu sais, les Grignoux, c'est jamais à l'heure, ils vont bientôt mourir. C'est bon, l'affaire est cuite. Eh bien non, nous sommes à l'heure pour une émission bourrée sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure.
Voilà. Ouh, et comment vous faites pour rester en apnée pendant quasiment 4 minutes
parce que là, vous, avez, ou pas, vous perdez encore du temps à respirer.
Vous faites un peu comme les dauphins. Oh, vous prenez une bouffée d'air en un dixième de seconde. On n'arrive pas à vous...
C'est peut-être aussi parce que j'ai repris la pistoche. Bon, je crois que vous avez oublié le sans oublier.
Sans oublier.
Tom.
Ah, mais non.
Il est là. Ah, mais il est là. Mais attendez.
Je l'ai pas reconnu.
Non, le problème.
C'est
le problème.
Quoi ces putains de modes de barbe mal taillées?
Voilà, bah, non plus, je l'avais pas reconnu.
Bah,
non
j'y
plus.
Tiens, il y a Clodo qui est en
train. Non, mais ça lui va très bien. Et non, encore, elle est, on va dire, elle est naissante, pré-naissante. Il nous a fait la surprise après les vacances de février d'arborer une belle, comment dirais-je, pilosité faciale. Mais autrement appelée barbe.
Oui.
Que d'aucuns ne se risquent pas à tenter pour des raisons esthétiques, soi-disant.
Comme vous disiez
mais
tout à l'heure.
Je soupçonnerais d'être un manque de maturité pilose,
pilaire.
Ouais, ouais.
Et quand on préparait l'émission, que vous disiez que j'avais 30 ans d'avance, moi.
Et non, vous aviez une moustache en 75.
Ah bah alors, bah aujourd'hui, c'est
en 75, une moustache, c'est ringard.
Ah, vous allez voir que la moustache va revenir à la mode pour les gamelles.
À part Freddie Mercury. Loué soit son nom, le seul à bien porter la moustache, c'était quand même Freddie Mercury à l'époque.
Mais une barbe, ça s'entretient. C'est du boulot, c'est peut-être même plus de boulot.
C'est d'accord.
Juste
d'accord.
De commencer. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rasé la dernière fois, bah, parce que c'est de l'entretien.
Ça fait combien de temps, moins un an et demi, vous n'êtes pas rasé là.
Non, mais attendez,
ça fait deux jours.
Vous allez chez une professionnelle.
Ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça.
Allez, c'est comme les dentistes, elles sont obligées de se pencher sur vous, mais ça vous fait moins mal.
On s'écoute un petit disque, après on va sur Roger, qui est premier comme d'habitude.
Yes!
Ouh, vous allez mettre un petit coup de power solo, vous.
Ouais, ah, j'aime bien, j'aime vraiment décidément bien ce groupe qui n'arrête pas de produire des albums avec des tons très différents. When I met the oak tree girl, I was all alone with this girl. Now I'm all alone with this world. Where are you, sweet oak tree girl?
The sun and drinking air, but there's no flowers in your hair, and there's no light, there's nowhere. Yes, and it is ours to give. I enjoy your beauties, but darkness and emptiness.
Carton rouge, eh ben, vous avez perdu vos cartons.
Non, je les ai, j'en ai retrouvé, je les ai mis
dans le sac. Ah, parce que là,
je voulais sortir.
J'avais pensé à lui une fois, quoi.
Voilà, Power Solo, un excellent morceau d'un excellent, non moins excellent groupe. Voilà.
Voilà, une émission bourrée comme tous les mercredis à 20h quasiment précise, jusqu'à 22h tout le temps.
Voilà, et je suis très très content à titre personnel. Vous dites que je mélange les nous, les vous, les jeux, en tout cas en moi, et je pense que vous aussi, et également Tom et Grovitch, qui va malheureusement pas traîner puisqu'il revient d'un porteur d'un virus tropical. Il a même refusé de nous serrer la main. Est-ce que vous pouvez dire encore bonjour dans le micro ?
Bonjour dans le micro.
Voilà, donc vous revenez de Nouvelle-Zélande. Vous avez été assez évasif, vous étiez là pendant 3 semaines, on vous a posé plein de questions. Est-ce que vous avez vu des kangourous ? Non.
Il n'y a pas de kangourous en Nouvelle-Zélande.
Bon, et des kiwis ?
Il y a des kiwis, mais j'ai vu que les fruits, en fait.
D'accord.
Ouais. Et est-ce que vous avez vu des néo-zélandais ? Là, vous avez répondu non.
Eh ben non.
Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été fait.
Il y a plein de moutons.
Il y a plein de moutons. Et il a refusé de nous serrer la main en disant qu'il en a, les amis, j'ai une super crève. Je suis content d'être venu dire bonjour ce soir. Il a emmené les grignoux jusqu'à la radio et il s'en va tout de suite.
Non mais, et soi-disant, décalage horaire de 11h. Et nous, on a décalé d'une heure. Non, moi, je m'en remets pas, là.
Non, moi non plus. Voilà. Moi non plus.
11h, j'aurais préféré...
On nous a volé, Jean-Louis, on nous a volé une heure de sommeil.
Ça, c'est les socialistes.
Ouais, les socialo-communistes verts qui nous ont volé une heure, Jean-Louis. C'est
voilà.
Un scandale.
Et je rappelle que cette heure-là, quand c'est apparu l'heure d'été, l'heure d'hiver, ma grand-mère détestait ça. Vous savez
pourquoi ? Parce que c'était les Boches.
C'était l'heure allemande.
Ouais, c'est l'heure allemande. On est reparti à l'heure allemande.
Et tout était réglé sur Berlin, en fait.
N'empêche que c'est quand même, je voudrais quand même pas dire, mais c'est quand même bien cool. Il fait jour super tard, on peut boire des coups sur sa terrasse, c'est quand même génial. Et si j'en venais à supprimer une heure, pourquoi nous supprimerons ?
Exactement. Ouais. On supprimerait l'heure d'hiver. Et on garderait l'heure d'été.
Mais méfiez-vous, parce que la FNSEA est contre. On reviendra
sûrement là-dessus. On s'écoute un petit 10, on n'a même pas présenté l'émission. On est bavards ce soir.
Je sais pas pourquoi. On présente l'émission parce que je disais que j'étais content.
Oui, j'étais content.
Voilà, je suis content parce qu'on reçoit Mehdi de l'association HOP. HOP pour Halte à l'obsolescence programmée. Une association qui bouge énormément puisque elle est quand même co-responsable. Mehdi, on reviendra là-dessus tout à l'heure quand même de la loi qui dans le cadre, enfin du... des articles de loi qui, dans le cadre de la loi plus générale sur la transition énergétique, prévoient donc des sanctions contre l'obsolescence programmée, à savoir, il faut peut-être réfléchir. Enfin, c'est quand même un sujet qu'on avait abordé à moult reprises chez les Grilloux. Et donc, du coup, c'est bien de pouvoir parler en direct avec ce monsieur qui va nous en dire plus sur cette association qui se bouge énormément, qui compte parmi ses membres plein de gens très, très actifs et réactifs, qui sont donc, comme je vous le disais, à l'origine de cette loi. Et c'est très bien.
Voilà. Hop. Comme...
halte à l'obsolescence. Attends. Programme.
Et moi j'aurais deux trois petites questions à poser. Vous savez, c'est je suis toujours le méchant, je sais pas pourquoi. Non, alors, dans ce monde idéal,
ça va être toujours pareil,
où il y a des jardins collectifs partout, tout est bio,
amitié politique et tout ça. C'est ça que
non, c'est mon côté pessimiste, je pense, ou pragmatique.
Non, que, regarde, l'obsolescence. Derrière vous le voyez pas parce que vous avez le dos tourné. Je vois notre ami Bertrand, un vieux technicien de Canal B. Et si on était dans le cas de l'obsolescence programmée,
ah bah, ce serait un jeune,
on l'aurait déjà jeté à la poubelle,
oui, mais
comme
pas...
les grignoux. Et grâce au Grignoux, et ben, et grâce à Canal B, l'obsolescence programmée n'existe pas à Canal B, puisque les vieux animateurs sont toujours là. Et ça fait bien plaisir.
Bah, vous parlez de qui, là, là?
Un poco too much.
Allez, un petit disque, et puis après, on embraye le vif du sujet, parce que l'heure tourne.
Maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un Grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, mais attends, tu me laisses parler.
Vous avez fait ça, il est en train de me tirer par la violence,
oh,
et ça me
coûterait.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Allez, rubrique à Jean-Loup.
Justement, puisqu'on parlait de... Ah bah voilà, ça fait tousser tout le monde. Et je parlais à mon bon Tom en disant que, justement, cette quinte de toux un petit peu persistante, s'il pouvait me donner un poumon, il me le donnerait, il me l'a promis.
J'étais un peu sous.
Oui, bah vous dites, ouais, pour courir, ça va pas être évident. Mais courir le SMI avec un seul poumon, c'est vous allez devenir la vedette, même si vous terminez le dernier. Quoi. Tout le monde vous connaîtrait. Je sais pas, la nature humaine, les fameux abattoirs, j'ai encore un scandale dans un abattoir bio, label rouge, etc.
Non, c'est pas un bio.
Celui-là, c'est un bio. Le dernier, regardez sur les infos.
Le dernier, le premier, où était bio. Le deuxième, label rouge, quoi. Non,
je sais le nombre d'ouvriers, 33. Regardez donc, vérifiez sur... c'était justement les plus grands bouchers parisiens se fournissaient dans cette...
Chez lui,
là, je peux vous assurer. Hein, là, le
abattoir du Pays Basque.
Du Pays Basque. Ouais, regardez, personne.
Je suis en train de vérifier.
Quand c'est Roger qui cause, tout le monde est là. Non, alléluia. Quand c'est moi, on vérifie mais sur Internet.
Non, vous avez tellement peu habitué à des faits divers que du coup, on se méfie.
Non,
un
mais
peu.
Si ça avait été un abattoir, on va dire industriel, bon,
ça n'aurait rien excusé. C'est là
ah non, ça n'aurait rien excusé. Par contre, ce qui m'a sauté à l'oreille, c'est le côté. Il y a des gens qui honnêtement pensent acheter une viande de qualité, etc., et qui sont abattus dans des conditions abominables. Peut-être aussi que ces petits abattoirs 30 personnes, c'est que dalle, sont moins bien contrôlées que des grands abattoirs
personnels. Je pense que les gros abattoirs ont peut-être plus de moyens pour freiner les enquêtes et freiner les problèmes.
Et le premier, c'était le même plan aussi, là où ils balançaient les petits moutons, etc. Alors après, est-ce que c'est vrai, ça fait 25 ans, vous êtes bouché même dans un abatteur, je sais pas comment on dit, dans un abattoir label bio et tout tralala, ce qui passe sous vos yeux, c'est même plus des animaux. Ça n'excuse rien.
Bêtes,
là.
C'est des bêtes.
Vous savez, je doute beaucoup de la nature humaine. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Lula? De quel parti? Le parti des travailleurs. La gauche, oui.
Si ça peut vous consoler, ils ont tous croqué. Parce que apparemment, le problème, c'est que ça a débordé un petit peu sur la droite et sur le centre, sur la droite. Et les grosses compagnies, il y a Petro Plus ou je sais pas comment elle s'appelle.
Oui, c'est là où c'est parti en fait.
Et il y a d'autres sociétés, notamment dans le bâtiment. Puisque comment le Brésil est co-organisateur de la Coupe du Monde, comment des Jeux Olympiques, etc. Donc du coup, il y a eu pas mal de pots de vin. Mais bon, on va pas parler de pots de vin, mais dont ont été traités, par exemple, sous Sarkozy, construction du Pentagone à la française, avec des contrats, vous savez, des super contrats publics-privés, c'est super.
Oui, mais
quand c'est cher, c'est public.
Sarko, c'est le libéral à droite toute. Lula, c'est quand même l'exemple, Et je pense aux quelques adhérents
mais
qui restent.
Vous êtes un Robespierre.
Du Parti des Travailleurs. Mais non, mais comment
vous en recommencez pas. Non, recommencez pas avec ça.
Il aurait coupé la tête à tout le monde. Il est mauvais. Je connaissais le père.
Les communistes qui sont tombés de haut à la fin des années 50, quand on a dénoncé les crimes staliniens, je pense que ça a dû être dur pour leur gueule.
Vous dites les années 50. Vous savez que le rapport Khrouchtchev a été publié qu'en 72, alors qu'il a été publié en 56 en URSS, il a été publié qu'en 72 au sein du PCF.
Mais bon, bref, c'est la nature humaine.
C'est la rubrique Jean-Loup va tous un doudou de
l'homme.
Mais vous lui avez donné la parole.
Une fois tous les
10 ans,
j'ai le droit à mon tour.
Il faut voir le côté fun, Jean-Loup. Le côté fun. Vous ne voyez que le côté tous pourris, on va tous mourir.
Mais, et vous voyez quoi? Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Je vous l'ai dit.
Socialiste.
Non, socialiste, je vous ai déjà dit le plus grand mal de Le Foll qui avait envoyé une lettre à tous les députés pour empêcher le vote, vous savez, contre les produits qui tuent les abeilles, en disant ça ne sortira jamais, même Ségolène Royal Non, il y a des bonnes nouvelles, par exemple, Maria Sharapova, je vous l'ai fait, ça, Maria Sharapova, ça vous dit quelque chose?
C'est la malheureuse athlète
russe qui est tombée pour avoir pris du meldonium à Magal.
Oui, et qu'en janvier, c'est devenu interdit.
Elle ne le savait pas.
Comme nombre d'athlètes russes, d'ailleurs, qui ont tous été punis, qui sont tous à l'amende, qui ont perdu leur contrat publicitaire et tout. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, puisque Ru Pharma, qui est la société qui fabrique fabrique ce Meldonium, a vu ses ventes tripler. Et alors qu'elle ne vendait péniblement que, comment dirais-je, 850 boîtes lors des 12 derniers mois, elle a vendu, depuis le début du scandale, près de 150 boîtes de médicaments en 24 heures. C'est pas merveilleux,
c'est pas mal,
ça
bah, donc comme quoi le produit est efficace.
Comme quoi le produit est efficace, Tom, et il y a aussi de bonnes nouvelles.
Tom, vous avez vérifié mon information ?
Oui, c'est effectivement depuis quelques années bio et la belle rouge.
Voilà, quelques années, voilà le.
Bon, et on va s'écouter un petit disque pour qu'on se remette de l'info vraie à Jean-Loup. Et après, je vous donnerai de la bonne info.
La rubrique à Roger.
Je vous donnerai de la bonne info.
Je vous
qui vous donne envie encore de vous lever demain matin, parce que sinon, et puis déjà 8h25.
Et vous voulez que.
C'est votre morceau.
Oui, bah justement, je vais présenter un petit mot quand ce sera la rubrique à Roger. Vous voulez quoi dans votre kebab, parce que j'allais l'acheter au passage là. Non, bah justement, voilà, moi qui collectionne, qui suis un fan d'une chanson qui s'appelle Bang Bang, que tout le monde, j'ai même en version cambodgienne,
et ben j'ai Nancy Sinatra.
J'ai toujours j'ai toujours cru que c'était Nancy Sinatra qui l'avait chanté, et ben
la
non. Ben non, je me suis fait baiser la gueule, je viens de découvrir il y a 6 mois que c'est, alors je vous le dis pour vous les vieux ça vous dit quelque chose,
vois.
C'est Sonny and Cher. Eh ouais, Cher, vous connaissez Cher?
Mais si, Cher.
Ah oui, Cher, ouais, oui, Cher, la chanteuse, oui. Elle faisait un duo, justement, et c'est Sonny and Cher qui a écrit la chanson, et là, j'ai dégoté la vraie version originale, qui ressemble, vous allez me dire, à la reprise, mais il y a une petite surprise à la fin.
Et vous n'avez pas cherché sur le petit site que je vous avais envoyé, la woosample.com? Vous retrouvez les samples à tous les coups,
oui,
ça peut être dessus.
Oui, oui, c'est pas vraiment un sample. Vous nous en parlerez tout à l'heure quand ce sera votre rubrique.
Oui, j'ai tenté que ça le soit un jour.
Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the trick or drink.
Voilà, et Tom a vérifié, voir si c'est vraiment la version originale.
Il a pas tort, moi je dis, il a pas tort.
Mais pourquoi quand je dis quelque chose, faut que ce soit vérifié? Est-ce que j'ai raison?
Oui, vous avez raison. Hein. Le site dont je parlais tout à l'heure, c'est le site qui s'appelle woosampled.com.
Ouais,
ça permet de... on tape un morceau, là, par exemple, comme Bang Bang. Là, j'ai tapé Bang Bang. Et donc, ça donne toutes les reprises qui ont pu être faites, ou tous les... petits samples justement qui ont pu être extraits de, d'une chanson pour donner d'autres chansons.
Ouais, et l'histoire de Nirvana qui avait piqué une intro oui. de Killing Joke.
Exactement.
Vous l'avez.
Et je l'ai trouvé aussi là-dessus.
Vous me croyez.
Mais j'ai vérifié.
C'est dingue, ça. Tout le monde vérifie.
Mais je dis que c'est bien de vérifier ses sources.
Oui, non, mais bon, ouais, quand
car
c'est
sinon.
Et quand c'est Saint-Roger qui parle, alors.
Ah oui, parce que Saint-Roger, il sort des papiers. Le oui, papier, la puissance
sérieux,
du papier,
ouais.
ça fait sérieux.
Alors, j'irai d'imprimer des conneries pour qu'on le croit.
Ben oui. Alors que lui, il est là, il sort ça de sa caboche et tout.
Un cerveau,
alors que moi, si je vous traite d'escroc, de fils de pute, de menteur, de collabo, de stalinien, de vendu, de salopard, de salope.
Mais pas de juif.
Non, c'est à peu près une liste non exhaustive des insultes et insanités proférées en moins de 25 minutes par les habitants du 16e arrondissement de Paris,
ah oui.
venus assister à une réunion d'information sur un projet de centre d'hébergement d'urgence. En fait, c'est clair, comment dirais-je, la mairie socialo-communiste de Paris a décidé d'installer de manière autocratique un centre d'hébergement pour réfugiés dans le 16e. Vous imaginez bien que ça queen et que ça a eu. Là où ça devient drôle, c'est quand on voit effectivement les insultes qui pleuvent, comment dirais-je, sur les représentants de la mairie et qui étaient proférées par des bourgeoises bontins et du bon bourgeois de gauche et de droite d'ailleurs, parce que c'est assez curieux de voir les contorsions du maire, parce que le maire d'arrondissement du 16e à Paris, c'est un socialiste. Et c'était assez amusant de voir les contorsions de ce maire pour essayer d'expliquer que oui, mais non, mais quand même, c'est quand même pas cool de nous péter du kurde, de, comment, du yézédi et autres barbus
et surtout du rhum. Alors.
Ouais, escroc, fils de pute. Les représentants de la mairie de Paris ont été comparés aux dictateurs de la Corée du Nord. C'est bien, en tout cas, quand le riche se lâche, le riche se lâche.
Oui, et vous allez voir, dans un an et deux mois, il va se lâcher, le riche. Ah, là, là.
Alors, est-ce qu'il vous reste des sous à la banque?
Je pense.
Eh ben, vous enlevez tout, vous vous achetez des conneries, de la drogue, vous allez chez les putes, vous faites n'importe quoi. Mais il faut quand même savoir que le prochain bug financier va venir de nos chères têtes blondes. Pas tout à fait les nôtres, c'est d'abord des Américains. Vous savez, ça commence d'abord aux États-Unis, et puis comme ils nous ont vendu tous ces trucs pourris, ce sont les dettes des étudiants.
Ah, c'est-à-dire que les mecs, hop, ils ont une licence, ils ont déjà 200 000 euros de dettes avant de commencer
voilà.
à bosser, quoi.
70%,
c'est bien la France, quand même, hein.
70% des étudiants diplômés en 2014 aux États-Unis ont obtenu un prêt et l'endettement moyen est de 29 000 dollars. Or, comme l'a noté le ministre, cela freine la consommation car le paiement des taux d'intérêt importants réduit la capacité des ménages à emprunter pour d'autres choses. Ben, c'est clair, on a emprunté 29 000 dollars pour pouvoir faire ses études et ça, c'est le coût moyen.
Ouais, parce que je trouve ça vraiment bas. Moi,
Le coût moyen. Et comment dirais-je, il va falloir rembourser ça avant de pouvoir, dès qu'on a trouvé un job, pour pouvoir commencer à vivre. Et le problème, c'est que ce phénomène, vous dites bienvenue en France, pas du tout, parce que en France se sont multipliées les écoles privées, vous savez, ces espèces de...
Ceux qui sont au top du top des performances, sauf qu'on ne dit pas comment on arrive au top,
voilà.
Les profs sont-ils meilleurs, le système est-il meilleur,
ou
y a-t-il une sélection extrêmement rigide à la base,
je pense,
qui fait que...
Dernière,
Oh, bah, je me souviens, je peux parler d'un cas familial d'un neveu qui avait passé toute sa scolarité dans un BU privé, sauf qu'il avait un niveau un petit peu léger, risque d'échouer au bac, eh ben le BAHU l'a obligé à se présenter en candidat libre. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'a pas eu son bac cette année-là, mais il ne rentrait pas du tout dans les statistiques du 100% de réussite de ce fameux
BAHU.
Ils l'ont pas viré, c'est-à-dire que c'est pas pareil, ils l'ont présenté à son nom. Donc
il a pas eu le droit de redoubler.
Et c'est vrai qu'il a pas eu le droit de redoubler, c'est vrai, dans le même lycée. Et là, on est bien content de trouver le service public quand même.
Tiens, ça c'est marrant, ça c'est un article que j'ai vu dans le Canard enchaîné. Alors je me rappelle plus de son nom, c'est le patron de Valeurs Actuelles. Comment dirais-je ? Le patron de Valeurs Actuelles, qui est quand même un journal très très à droite de Dieu, et il lui arrive des malheurs aussi. On peut être de droite et puis avoir des problèmes de santé. Bref, il a dû conduire sa femme aux urgences et il s'est rendu dans un hôpital. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure peut-être, il lui arrivait ce qui arrive au commun des mortels quand on est aux urgences. Et on vous prend pas tout de suite. Et comme c'est quand même un monsieur très connu, etc. Il a tweeté, il a des followers, etc. Il a tweeté, il a dit quoi ? Ça fait déjà une heure que je suis dans l'hôpital. l'hôpital, que fait l'assistance publique des hôpitaux de Paris, personne ne s'occupe de ma femme, blablabli, blablabla, et tout. Et il a tweeté ça, sauf que, en l'occurrence, il était à, je crois que c'est Saint-Étienne, ou Sainte, je sais pas quoi, et cet hôpital-là n'est absolument pas un hôpital public, mais un hôpital privé, et il a été traité comme un clébard dans une entreprise dont ils vendent pourtant à longueur d'articles et à longueur d'édito les talents. Et ce bonhomme-là, il est, c'est un petit peu scandaleux, comme si quand bien même aurait-il été dans un hôpital public, parce que du coup, Marisol a été au courant, et c'est les hôpitaux publics, pouf, qui lui ont renvoyé un tweet. Loin de s'excuser, ce connard a juste contenté de supprimer son tweet. Et ce bonhomme-là, il faudrait quand même qu'il se rende compte que lorsqu'à longueur d'article, à longueur d'édito, il dit, faut supprimer des fonctionnaires, il y en a trop dans les hôpitaux qui font rien, à part sniffer la coke de la pharmacie, et effectivement, quand on va aux urgences, ça manque de personnel, donc tu attends mon con, c'est comme ça. Et ça me fait penser à un ouvrage que je suis en train de lire, que ma chérie a déjà lu, qui s'appelle un ouvrage de Gérard Mordia, qui s'appelle La Brigade du Rire, dans lequel le pitch, je vais même pas vous spoiler la fin, parce que je l'ai pas fini, et le pitch de cette histoire, c'est un groupe de terroristes qui, au lieu connement de poser des bombes dans un aéroport ou dans une station de métro, eh bien, enlève un monsieur qui ressemble fort à celui-là, c'est un éditorialiste d'un journal très très à droite, un journal économiste très à droite, il est peut-être lui d'ailleurs auquel l'auteur avait pensé, allez savoir, et il se retrouve enlevé par un mouvement terroriste qui lui dit, maintenant tu vas bosser, et si tu bosses pas, on te donne pas à manger, et il est en prison sur un tour, et il doit percer des pièces, travailler, usiner des pièces, et il dit, on est désolé, mais là la cadence vient de changer, va falloir bosser un peu plus vite. Ça s'appelle les brigades du rire, de Gérard Mordria, et c'est jouissif.
Et ça finit comment?
Mais j'ai pas lu.
Vous l'aurez déjà raconté.
Il a des fiches.
Non, mais j'ai pas lu la fin. Et je suis en train de le lire. Ma chérie vient de le lire. Elle m'a dit que c'était excellent. Effectivement, c'est assez jouissif de voir ce bonhomme-là astreint à la à ce qu'il prône finalement. Un petit dix.
J'ai dit soir, en même temps.
C'est encore moi.
Non, oui, c'est parti, je vous ai calé Jaromil Sabor, Until the End of the World.
Ah ouais,
il est bien, il doit durer 3 minutes 20, et ça va donner à Jean-Louis et moi l'occasion de fumer une dernière cigarette.
Voilà, il est tout à fait dans les standards de ce qu'il faut, 3 minutes 20.
2 minutes 44, je sais pas pourquoi il dit 3 minutes 20.
Mais non, mais j'en ai un, 3 minutes 20.
Oh, je vous ai mis 2 minutes 44.
C'est pas de ma faute.
On va faire avec.
Je peux en chercher un autre, mais il faut me laisser le temps.
Eh ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous retrouver? Vous êtes dessus.
Et pourquoi vous avez,
j'ai un 4 minutes 30.
Oh là, c'est quoi ça?
Broken Phone Blues, Black Strobe.
Non.
Non.
Puis on le... Et comme quoi...
Et mettez-nous le 3 minutes 10.
3 minutes 30.
Et ben voilà.
Voilà, c'est celui-là.
Ah, ça, j'avais précalé ça pour Jean-Loup.
No Money Kids.
No Money Kids.
Ouais, et c'est très très bien.
Oui, c'est un de mes morceaux préférés du moment.
C'est vrai? Même pas vrai. On fera là.
Mais tu t'es confessé au curé ces temps-ci? Ben non. À moi, faut que j'y aille. Mais j'ai raconté partout que les grignoux étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais, alors? Ben c'est un super gros mensonge.
Sciences et techniques par les ingénieurs grignoux, voilà. Enfin, ouais, on dira ce qu'on veut, mais voilà.
Allô, allô?
Oui.
Ah, on vous entend pas trop.
Mettez votre casque.
Je vais mettre mon casque. Allô, allô?
Oui.
Ah, je vous entends, c'est un peu faible, je vois que mon compère Jean-Loup ne vous entend pas. On est ravis de vous recevoir, vous êtes donc Mehdi. Alors j'ai pas noté votre nom de famille.
Il y a pas de souci, Mehdi Le Mans, d'Alta, l'obsolescence programmée de HOP, donc.
Voilà, et vous êtes donc ce soir pour nous représentant de l'association HOP pour Alta, l'obsolescence programmée. Et on est ravis de vous recevoir ce soir parce que c'est un sujet qu'on a abordé à diverses reprises, mais de façon très très informelle, très parcellaire à travers effectivement les différentes informations qu'on avait là-dessus, les documentaires notamment qui sont passés sur Arte, sur un magnifique documentaire qui s'appelle L'obsolescence programmée, d'ailleurs qui commence avec une ampoule dans une station de pompiers.
Oui, bien sûr, prête à jeter, je crois.
Ouais, et qui marche toujours, d'ailleurs, une ampoule.
Qui marche toujours et qui est encore projetée ces jours-ci à Paris. D'ailleurs, on a fait un ciné-débat il y a quelques semaines avec ce documentaire. Voilà.
D'accord. Et donc, je ne savais pas, moi, par contre, et je l'ai découvert sur France Info, d'ailleurs, lorsque, sur France Info, ils vous ont accordé au moins, 3 minutes, on va dire, pour parler de votre activité.
Exactement.
Et en tout cas, c'est quand même fort utile parce que je me suis dit, ah, ça y est, il y a des, il y a quelque chose qui existe, des gens qui se sont organisés pour lutter contre ça. Et j'ai trouvé, effectivement, on a trouvé, effectivement, chez les Grignoux que l'idée nous plaisait. Alors, HOP, c'est né comment, du coup, Mehdi?
Eh bien, HOP, en fait, elle est née à la suite, déjà, de la publication d'une loi. D'une loi qui visait spécifiquement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'obsolescence programmée. Cette loi faisait partie du paquet transition énergétique qui était en discussion à ce moment-là. Et cette loi, elle ouvrait, disons, une nouvelle ère pour la lutte contre ce problème-là, puisqu'elle permettait de sanctionner en fait les fabricants, les metteurs sur le marché qui pouvaient être punis d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende quand même.
Ah ouais.
Donc voilà, et surtout cette loi, elle définissait très clairement l'obsolescence programmée comme étant l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
Voilà. C'est-à-dire donc, ouais, oui. Alors moi je suis un petit peu naïf de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait les fabricants prévoient que le produit dure 2, 3, 4, 5 ans et tout ça est fait d'avance pour pouvoir en racheter un neuf à la fin.
Alors oui, ça c'est toujours la question qu'on pose.
Oui, mais
c'est une excellente question. Excellente question. Pourquoi? Parce que justement l'obsolescence programmée est passée un peu à la postérité avec l'idée qu'il y aurait un grand complot capitaliste ciblant le consommateur. On a beaucoup de raisons aujourd'hui de penser ça, mais aujourd'hui il ne s'agit pas d'une bande de vilains actionnaires en cravate qui, le jour d'un conseil d'administration, décide de limiter la durée de vie d'un produit. À bien des égards, en fait, aujourd'hui on n'a plus besoin de programmer l'obsolescence puisque c'est l'ensemble du système tel qu'il existe aujourd'hui, une économie mondialisée, des frontières ouvertes, un coût du travail qui varie selon les pays, et des composants plus ou moins fragiles, plus ou moins issus de sous-traitants, etc. Une chaîne de montage, voilà, qui font que ces produits ne durent pas. Après, dans des entreprises, on a effectivement des managers de l'obsolescence qui fixent la durée de vie des produits pour qu'elles répondent aux logiques de profit les plus optimales pour l'entreprise.
Mais c'est apparu quand véritablement? À partir de quand on a pu parler effectivement d'obsolescence programmée? Dans le documentaire d'Arte, il parle déjà d'une entente, il y avait une entente avant-guerre d'ailleurs sur les fabricants d'ampoules justement.
Oui, là en fait on parle d'un événement qui est assez marquant dans l'histoire en fait de ce sujet-là, c'est le cartel Phébus, qui en fait lorsqu'il s'est monté a décidé effectivement de réduire tout simplement la durée de vie des ampoules et de s'accorder entre différents acteurs, différentes entreprises fabricantes d'ampoules, sur la durée de vie optimale d'une ampoule.
Je vais vous poser une autre question idiote. Est-ce que la mode, c'est de l'obsolescence programmée, quelque part?
Eh bien, c'est pas du tout une question idiote. excellente, puisqu'en fait, évidemment, les logiques de mode participent d'un renouvellement accéléré et complètement délirant des produits, de la consommation, et donc d'une surconsommation. Et puis, c'est pour ça que nous, chez HOP, on s'intéresse aussi à ce qu'on appelle l'obsolescence esthétique. Et on est en contact aujourd'hui avec des réseaux qui sont des réseaux anti-pub, des réseaux qui critiquent la surconsommation et tous les signaux qui nous incitent à aller vers cette surconsommation.
Alors,
donc, la mode joue évidemment.
Alors on s'est un petit peu emballé, on est rentré un petit peu dans le débat.
Non, mais j'ai des questions naïves à poser.
Mais comment dirais-je, vous-même, vous êtes rentré comment justement dans cette association? Qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans ce combat?
Eh bien, d'abord, moi en fait, j'ai étudié les risques qui portaient sur la santé et l'environnement. Donc souvent, ils sont liés, hein, bien sûr, puisque on sait par exemple que un risque lié à la pollution des automobiles aura un impact négatif sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Je pense aux particules fines liées au diesel, par exemple. Voilà. Ensuite, après avoir étudié ça, j'ai travaillé 2 ans pour une association qui s'appelait Institut des Futurs Souhaitables et qui avait pour but de travailler avec des experts et des citoyens pour imaginer ce que pourrait être un futur réussi dans différents domaines et comment on pourrait y arriver. Et bien sûr, la consommation responsable ou l'environnement, le climat, faisait partie de ces domaines de travail. Et aujourd'hui, il est très intéressant, lorsqu'on fait du plaidoyer, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de devenir, on va dire, des contre-lobbyistes qui défendent un peu un autre monde que celui qu'on essaie de nous imposer, très intéressant d'avoir des angles d'attaque qui mélangent à la fois la consommation et le développement durable. Et aujourd'hui, l'obsolescence programmée est clairement au croisement des deux, puisqu'elle a des conséquences économiques et sociales qui sont terribles, et surtout des conséquences environnementales qui sont désastreuses.
Et donc, du coup, vous êtes rentré, vous êtes permanent dans cet assaut?
En fait, aujourd'hui, c'est une assaut qui est composée de 30 bénévoles engagés, avec un noyau dur de 5 à 10 personnes, et là, qui est en train d'ailleurs de passer un peu à la vitesse supérieure. Mais on n'a aucun salarié, et on a aujourd'hui très peu de financement, et on en cherche aussi pour aller plus vite, et pour peser plus. Puisque notre but à nous, c'est bien de mettre la pression aussi sur ceux qui décident ou qui ont des leviers de pouvoir pour faire avancer un peu ce sujet et aller vers une consommation plus responsable et des produits plus durables. Donc pour ça, on a besoin aussi de moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de permanent dans l'association. On est tous des bénévoles qui, peut-être comme vous, des amis à vous, ou tous les gens qu'on connaît qui s'investissent comme ça corps et âme, travaillent du coup gratuitement sur leur temps libre.
Parce que du coup, vous avez, c'est vrai que c'est très très éclectique. Au début, pouf, quand on va sur votre site, on voit que des jeunes. On se dit ouh, c'est un mouvement jeune. Puis après, hop, la page suivante, ça vieillit un peu et on voit des gens vénérables et très compétents. D'ailleurs, comme un rédacteur du d'Alternative Économique.
Oui, oui, bien sûr.
Donc du coup, vous regroupez plutôt des juristes, des économistes, des sociologues, enfin, je sais pas qui se mouille le plus dans cette affaire-là.
Eh bien, on a besoin de tout ça, nous, pour comprendre le phénomène, bien sûr, parce qu'on a besoin des économistes pour inventer de nouveaux modèles économiques, et parce qu'on a besoin des sociologues pour comprendre un peu quels sont nos comportements de consommation face à tout ça, puisque une bonne grande partie du problème, c'est nous. Et ce n'est pas les entreprises qui ne font finalement que, quelque part, répondre à ce qu'on demande. Et puis, on a aussi besoin de gens qui sont des professionnels de la mobilisation ou qui sont des professionnels de la solution, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les nouveaux modèles économiques, l'économie collaborative, l'économie du partage, et aussi sur les alternatives qu'on a, par exemple, à un monde sans pub. Voilà, toutes ces questions-là sont essentielles si on veut lutter contre l'obsolescence.
Écoutez, on se passe un petit disque, on fait une petite pause musicale, comme on dit dans les bonnes radios, et après j'aurai une troisième question idiote à vous poser.
Très bien.
À tout de suite.
Avec plaisir, à tout de suite.
home, yeah. In Mount Zion, instead of keeping oppression.
Voilà, après cet excellent morceau de la programmation à Tom, reggae, c'est le printemps qui arrive.
Oui, c'est ça, j'avais un petit peu envie de passer du reggae.
Et ben, c'est une bonne
bon
idée.
Morceau.
Et nous sommes toujours en compagnie de Mehdi de l'association Hop.
Bonsoir.
Bonsoir, rebonsoir. On va partir se redire bonsoir, ça, on rappelle ça, vous savez, il y a toujours des gens qui arrivent en retard.
Oui.
Alors, comme on peut pas vérifier, on est une radio, on sait pas à quel moment ils ouvrent le poste, alors du coup, on est obligé de rappeler un petit peu les choses. Mais passé 21h15, on s'excusera plus, j'aime autant vous dire, ils avaient qu'à le venir avant. Et vous êtes donc le représentant d'une association qui se bat contre l'obsolescence programmée. Et du coup, on a parlé un petit peu de votre engagement, des raisons pour lesquelles, effectivement, vous êtes rentré dans cette association. On a parlé également des membres plus actifs, hein, ceux qui apparaissent sur l'organigramme sur votre site. C'est facile, hein, il suffit de taper HOP, H-O-P, ça m'a tout de suite fait penser à Achille Talon. Vous connaissiez Achille Talon ?
Oui, bien sûr.
C'était une expression qu'il avait régulièrement.
Oui,
et,
hop, oui.
Et comment et en plus des membres plus actifs, comme ceux qui sont présentés sur le site, est-ce que si moi ou n'importe qui nous écoute a envie effectivement de vous rejoindre, comment ça se passe et en quoi consiste l'action du citoyen lambda au sein de HOP ?
Eh bien d'abord, on a plein de projets, donc effectivement, les idées ne manquent pas. Et d'ailleurs, on les réfléchit aussi avec les gens qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on est clairement à la fin d'une première phase pour HOP, qui a été une phase de lancement des tribunes dans Libération pour critiquer un peu les pratiques d'obsolescence d'Apple, par exemple. Mmh. Et aussi une campagne d'éco-conception de collants durables, parce que c'est un produit symbolique de l'obsolescence. Et aujourd'hui, on a déjà des bénévoles, mais on sent qu'on peut passer à la vitesse supérieure et que beaucoup de gens nous écrivent, nous contactent, nous posent des questions et veulent nous rejoindre. Donc, si vous voulez nous rejoindre chez HOP, c'est très simple. D'abord, vous allez sur notre site internet et puis vous lisez un peu notre manifeste qui raconte un petit peu pourquoi on veut se battre contre ça et comment. Et puis, si vous êtes d'accord, vous nous rejoignez, vous signez et là, que vous faites est très important parce que en donnant votre adresse mail, et bien sûr on s'en servira pas pour vous envoyer des milliers de mails et inonder vos boîtes, en donnant votre adresse mail, vous nous aidez à avoir plus de poids en fait dans des activités de plaidoyer qu'on va faire face aux grandes marques, aux grandes enseignes et aux grands constructeurs.
Mm-hmm.
Parce que un de nos objectifs à nous, c'est vraiment de faire des actions de groupe en justice à terme pour pouvoir peser en tant que groupe de consommateurs et avoir une influence réelle pour justement préciser un peu les contours de cette loi obsolescence programmée et puis faire en sorte qu'on avance.
Pour forcer, effectivement, parce que je pense que Jean-Loup vous posera cette question-là.
Idiot.
Comment dire, vous savez, vous êtes un peu comme au commissariat, il y a le gentil, il y a le mauvais.
Bien sûr,
et comment dirais-je, le mauvais va sûrement vous demander pas mal de questions tordues, et s'il le fait pas, j'y penserai. Mais comment les actions de groupe en justice, si j'ai bien compris, c'est parce que on a un contour de loi qui reste quand même, somme toute, assez flou, parce que les amendes prévues peuvent être assez fortes, hein, d'après la dernière loi, j'ai vu même un pourcentage du chiffre d'affaires, etc. J'ai vu des choses qui tapent. Le problème, ça va être aussi d'avoir au moins une décision de justice qui puisse effectivement servir de base aux décisions de justice qui viendront par la suite. C'est un
Exactement.
Peu ça, votre objectif ?
Exactement, bien sûr, c'est ça l'objectif. Et vous avez tout résumé. Aujourd'hui, en fait, on a une loi qui existe et surtout qui peut être couplée, si vous voulez, à d'autres articles, par exemple du Code de l'environnement, mais aussi à la loi consommation.
Mmh.
Et ça, en fait, ça nous donne un arsenal juridique. Mais ce n'est que le début, c'est-à-dire que si ensuite, en tant que citoyen, on ne se saisit pas de cet arsenal juridique pour taper un peu là où ça fait mal, ça n'avancera pas.
Mmh.
Donc pour l'instant, même s'il y a eu des premières initiatives et que ça a provoqué quand même un changement de mentalité chez déjà certains constructeurs des grandes marques. Tout reste à faire et c'est nous qui devons le faire. Hein. C'est nous, citoyens.
Un peu comme l'association Anticor qu'on avait reçue.
Bien sûr.
Ou l'autre association qu'on avait reçue également, c'est les biens mal acquis. C'est un peu ce genre de système.
Complètement. La démarche aussi de regard citoyen ou de Next Impact sur des questions technologiques ou numériques.
Mmh.
Ce sont les mêmes dynamiques.
Bah, donc, j'allais attaquer ma question idiote, mais l'obsolescence programmée, on peut dire que c'est quand même une bonne chose pour l'économie. Ça crée de l'embauche, ça stimule la créativité. Mon téléviseur qui a 4-5 ans, qui est plus à la mode, bah, je vais en racheter un. Donc le commerçant va prendre... Voilà, je dis des conneries ou pas?
Mais pas du tout. après tout, c'est de ce constat-là qu'est parti Bernard London en 1932. pour dynamiser un modèle économique qui était à bout de souffle. Stimuler la production, stimuler la consommation, et plus on consomme, plus les entreprises gagnent en commande, elles investissent, et puis théoriquement, effectivement, ça accroît l'emploi, le chiffre d'affaires, et puis on a la TVA, on a les pouvoirs publics, etc. C'est une fantastique machine. Après, aujourd'hui, le seul problème, c'est que on se rend compte quand même, malgré tout, que cette croissance qui pourrait être provoquée par justement cette machine de production, de surproduction et de surconsommation, déjà sur l'emploi, on se rend compte que, si je puis le permettre, dans certaines économies occidentales, elles ne créent pas tant d'emplois que ça. Bon, ça c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'en termes de conséquences environnementales, on se dirige clairement droit dans un mur, ne serait-ce qu'en termes de climat, puisque ce système-là est générateur d'émissions de gaz à effet de serre qui sont fantastiquement élevées, et aussi en termes de ressources, car évidemment, toutes les ressources dont nous avons besoin pour faire aujourd'hui ces produits qui deviennent obsolètes très rapidement et que, en grande partie, nous jetons et nous ne savons pas recycler, et ben ce sont des ressources qui s'épuisent et qui vont disparaître et qui sont beaucoup, pour beaucoup d'entre elles, non substituables en fait.
C'est-à-dire qu'on
n'a pas trouvé d'équivalent.
Est-ce qu'on pourrait revenir justement sur ces... Alors, vous verriez comment la poursuite de la discussion, c'est-à-dire que l'obsolescence programmée a des conséquences, elles sont sociales, alors justement pour revenir sur environnementales, elles sont économiques, pour en revenir justement sur les conséquences sociales, quand on décide, est-ce que c'est véritablement un avantage de pouvoir bénéficier d'un ordinateur à 20 boules, d'un grille-pain à 5,50 €, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le travailleur pauvre?
A priori, l'obsolescence, ce qui a été démontré par de nombreuses études, c'est que de façon générale, elle a quand même un impact très négatif sur le pouvoir d'achat des ménages. Et qu'elle les oblige...
Si on vous dit c'est super, moi je peux acheter un grille-pain pour 10 boules.
Eh bien, on l'achète, hein, évidemment, on l'achète. Mais la question de la fiabilité de ce produit... Et puis, la façon dont aussi on va inciter les ménages à se suréquiper avec plein de produits qui sont effectivement très très peu chers et qui vont tous couvrir des usages différents. Donc, sur le plan économique, elle a quand même cette obsolescence programmée un impact très négatif sur notre pouvoir d'achat. Il faut absolument qu'on en ait conscience. Il faut aussi parler, c'est très important, de tout un business qui justement se développe en parallèle de cette obsolescence, qui est celui par exemple des contrats de garantie.
Alors, c'est-à-dire
ben, aujourd'hui, puisqu'on a un système qui est majoritairement orienté vers le renouvellement des produits, on a un système de contrat de garantie qui est en place pour nous faire payer des garanties très chères, qu'on n'utilisera parfois jamais, ou alors on aura des appareils qui tomberont en panne juste à la fin de la garantie.
Ouais, on a des garanties à vie, et hop, et je sais pas, 30 ans après vous arrivez, on vous demande où est le bon d'achat. Oh, bah zut, je l'ai pas forcément. J'aurais une quatrième question idiote à vous poser. Est-ce que dyslexie programmée n'a pas aussi ses vertus, parce que là imaginez qu'on est dès les années 50 on ait fabriqué des voitures qui durent 50 ans, là on aurait des diesels hyper polluants qui bouffent 18 litres au 100. Regardez en termes d'économie d'énergie les lave-vaisselle, les ordinateurs etc. qui permettent d'économiser de l'énergie d'une certaine manière et de pouvoir travailler beaucoup plus rapidement.
En clair, est-ce que comment l'obsolescence va de pair avec le progrès technique?
Évidemment, c'est une excellente question. Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment préciser, c'est très très important, lutter contre l'obsolescence programmée, c'est lutter contre la surconsommation, et c'est lutter contre le fait qu'il y a des pratiques commerciales qui retirent aux citoyens leur liberté de consommer de façon durable et responsable. Mais ce n'est pas lutter contre le progrès technique. Aujourd'hui, De la même façon que certains décroissants vont prêcher une autre façon de consommer, il ne s'agit pas d'un retour à la bougie. Il s'agit juste qu'on empêche des citoyens qui voudraient par exemple faire réparer ou faire durer leurs produits quand ils leur conviennent, de le faire. Déjà, si on s'attaque à ça, on résout une sacrée partie du problème. Mais on ne doit pas pour autant effectivement interdire l'arrivée de nouvelles technologies sur le marché, surtout quand elles ont un impact environnemental favorable.
Alors, ce que vous proposez, en fait, c'est davantage avoir la possibilité de choix. C'est-à-dire, à partir du moment où je choisis un appareil, mais je dois pouvoir le faire réparer pendant 10 ans, quitte à moi de rester un vieux ringard par rapport à mon vieux collègue Jean-Loup qui a déjà le grille-pain atomique. C'est ça?
Exactement. Et puis, après, il faut rappeler aussi les contraintes écologiques, hein. Je veux pas, partir trop dans tous les sens, mais ces contraintes écologiques-là vont nous obliger, dans les années qui viennent, et là, je parle de décennies, hein, je parle pas de générations futures abstraites, dans 100 ou 200 ans, ces contraintes écologiques-là, de ressources notamment, vont nous obliger à aussi savoir un peu faire des sacrifices et des compromis sur les nouvelles technologies qui arrivent et à quelle vitesse on veut les obtenir. Je parle là de la différence entre par exemple une 3G et une 4G, une 4G et une 5G sur des téléphones portables.
Et pour revenir au problème soulevé par mon collègue, est-ce que c'est pas davantage aussi un problème philosophique, à savoir est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir une technologie qui est, par exemple, est-ce qu'on a besoin par exemple d'un frigo connecté, par exemple?
Évidemment, vraiment toute la question est là. Nous aujourd'hui chez Hop, on le dit souvent aux gens qui nous parlent. D'ailleurs, on en arrive tout de suite à cette question. Ce qu'on défend, nous, c'est bien un autre projet de société, évidemment. Et ça nous semble d'ailleurs complètement incompatible de vouloir lutter contre l'obsolescence programmée sans remettre en cause la publicité, sans remettre en cause l'innovation inutile, le bol de céréales connectées, la poubelle connectée qui ne sert à pas grand-chose finalement, à part vous dire que vous mettez toujours plus de déchets dans votre poubelle, le frigo connecté. Ce sont des innovations dont on doit questionner aujourd'hui le bien fondé, en fait.
Encore une question idiote de ma part. Moi, il y a un truc, vous dites, mon grille-pain préféré tombe en panne, je vais le faire réparer. Je suis sensibilisé par ça. J'arrive chez le réparateur qui me dit, avec le devis, si vous prenez, vous avez pour 70 euros. Alors que je peux avoir un neuf pour 20.
Bien sûr.
C'est pas un problème aussi, quelque part?
Mais c'est un énorme problème. C'est un énorme problème, et c'est pour ça que nous nous sommes battus, par exemple, ces dernières semaines, pour qu'un décret qui concernait les pieds détachés soit appliqué, puisqu'il ne l'était pas. Et c'est pour ça qu'on a été très solidaires d'actions menées par d'autres ONG amis, qui ont été mettre des cartons rouges à tous les grands distributeurs, je pense à des grands distributeurs d'électroménagers, qui ne respectaient pas ce décret. Décret qui oblige aujourd'hui, donc juridiquement, les fabricants, les metteurs sur le marché à afficher liste des pièces détachées. Donc oui, il y a un problème quand on refuse aux citoyens sa liberté de faire réparer un objet.
Mais c'est pas la pièce détachée en elle-même qu'on la trouve qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre.
Bien sûr, c'est le coût du travail. Bien sûr, c'est la main-d'œuvre et c'est le coût du travail. Et c'est pour ça aujourd'hui que des gens qui ont été salués comme étant porteurs d'initiatives et d'un meilleur avenir, et qui sont passés avec nous à la télé, sur TF1, sur France 3, ont mis la clé sous la porte, par exemple, 3 jours ou 4 jours après le reportage. Aujourd'hui, des gens qui veulent faire de l'économie et justement participer de cette merveilleuse croissance en s'orientant vers quelque chose de plus responsable, on parle souvent de croissance verte, et qui veulent faire de l'économie, de la réparation, pardon, un business, n'arrivent même pas à faire en sorte qu'il soit complètement rentable. Beaucoup de gens luttent pour inventer des modèles économiques qui vont avec ça.
Parce que du coup, derrière, il y a aussi, c'est-à-dire que pour faire simple, les plus pauvres vont acheter les produits les moins chers. Finalement, comme les produits les moins chers ne vont pas durer longtemps, ils vont passer leur temps à en racheter. Donc, final, ça va leur coûter plus cher qu'une personne qui a les moyens d'acheter un objet qui, lui, va durer. C'est déjà une arnaque dès le début, en fait.
Ça se passe malheureusement souvent comme ça, que ce soit en matière de consommation ou d'environnement, mais c'est effectivement le cas.
Et cerise sur le gâteau, les objets qui sont fabriqués, enfin justement les objets qui sont fabriqués que les gens achètent, c'est des objets qui sont délocalisés parce qu'on va les fabriquer dans des sous-licences pourries, dans des pays de misère.
Complètement, et puis des objets qui peuvent aussi parfois comporter déjà des risques pour les consommateurs ici. Puis voilà, qui dit objet à moindre coût, dit objet de moindre fiabilité, avec des risques de... voilà, des bris de verre, des types d'explosions, des courts-circuits, et puis des risques aussi sanitaires, hein, parce que des objets à bas coût, fabriqués à l'étranger avec des normes dérégulées, sont parfois aussi des objets qui vont avoir des substances qui ne sont pas forcément très regardante au regard des normes sanitaires européennes, par exemple.
On le voit pour les jouets, par exemple, pour Noël, on dit « Ouh, les jouets sont tout pourris, les jouets chinois !» Par contre, voilà, quand ça touche les enfants des petits Européens, là, par contre, ça réagit.
Voilà, exactement.
Mais alors, du coup, pour en finir avec ce volet social, on a un petit peu de temps, quand même, il est que 21h05. Alors, si on voit bien le circuit, on incite les gens, les plus faibles économiquement, à acheter des produits les moins chers, qui vont pas durer longtemps, etc., etc. On fabrique ça dans des usines délocalisées. Il y a quand même, au final, un volet politique, forcément, chez Hop.
Bien sûr.
Parce que si on parle de changement de société, comment vous voyez les choses, du coup, là-dessus?
En fait, aujourd'hui, nous, on se dit qu'il y a déjà une possibilité de donner la liberté à ceux qui veulent réparer de le faire, déjà. Et limiter, l'urgence nous paraît d'être de limiter la casse sur le plan économique, c'est-à-dire pour notre portefeuille à nous en tant que consommateurs, et sur le plan écologique. Donc ça, c'est l'urgence. Ça veut dire, dans un premier temps, essayer d'appliquer les principes de ce qui reste aujourd'hui une coquille vide et qui s'appelle l'économie circulaire. On nous parle beaucoup d'économie circulaire, mais l'économie circulaire et cette règle des trois R, c'est-à-dire réutiliser, recycler et j'ai perdu le troisième, mais en tout cas faire en sorte que cette consommation et cette production soient un cycle dans lequel la perte de ressources est minime, c'est-à-dire on ne perd rien, ou le moins possible, aujourd'hui on n'y est pas. Et on n'y est pas parce que on ne nous encourage pas à réparer, parce que le circuit des réparateurs, etc., n'est pas assez performant pour ça, et on n'est aussi pas bon sur cette économie circulaire parce qu'on est mauvais pour recycler.
Mmh.
Et une des raisons pour lesquelles on est mauvais pour recycler, c'est qu'on ne fait pas d'éco-conception.
Mmh.
C'est-à-dire qu'avant de concevoir un produit, on ne pense pas, au moment de le concevoir, on ne pense pas à son recyclage.
Alors, du coup, justement, alors là, vous abordez le nouveau problème d'économie circulaire. Il y a Jean-Loup qui me dit, oula, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. Est-ce que, à ce moment-là, on se fait une petite pause, et puis, du coup, vous pourriez développer un petit peu ce problème d'économie circulaire?
Bien sûr.
Yeah.
Eh ben, à tout de suite.
À tout de suite.
So I'm going this morning, I'm walking over to our ship, just keep it going. So I'm going this morning, and I went to the loo, and it walked out of cubicle, and it fucking stunk. Every morning I get in, and it's the same time, same trap, same sting, and it glides through the air. And by the time it's hit you, it's been pacified by 10 yards of fresh air. Livable shit. Put up with it. Livable shit. You put up with it. And the gnarly fucking arseholes that gather no balls to do anything apart from sliver, mixed in with knowledge and no localism, just fake accents nicked from someone posh they might have met in Shoreditch, a vegetarian vet, Lou fucking Reed, whoever, GG fucking Allen, gestures of violence to anybody that can't see or hear them, that kind of prick, that kind of shit, livable shit, like 3 months of rain, nobody likes a fucking Tory rain. The Prime Minister's face hanging in the clouds like Gary Oldman's Dracula as canoe reeds drove up to the fucking castle, laughing really badly, relentless, like the gears on a bus if you sat at the back next to a noisy twat, St. George's flag twat. Livable shit, livable shit, you put up with it. Livable shit. You put up with it. 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 No, hold on. So now I don't dream of anything. I just wait for it to turn up. It's the atmosphere around here. Just chopped my legs off, look. Made me lazy. Made me worry about the streets behind me. Trees like triffids. No time. The grass is always greener.
on the other side, break on through, and end up in a posh cemetery in Paris. Not bad, you fucking livable shit. Was that any good? Livable shit. Put up with it. Livable shit.
Voilà, vous êtes toujours sur l'antenne de Canal B, sur l'émission des Green News. Vous êtes toujours en compagnie de Mehdi de l'association Hop. C'est la dernière fois qu'on le rappelle, tant pis pour les retardataires. Et justement, nous allions aborder donc l'association Hop, je le rappelle quand même, qui lutte contre l'obsolescence programmée. Et nous étions en train d'aborder le chapitre de l'économie circulaire, parce qu'effectivement, l'économie circulaire occupe, comment dirais-je, un large pan de votre philosophie. Et on aimerait bien effectivement avoir quelques éclaircissements. On a déjà développé, en tout cas sur cette antenne, le problème des circuits courts en termes d'agriculture, parce que vous savez que la Bretagne est une région un peu sinistrée dans ce domaine. Et et c'est un euphémisme. Et donc du coup, qu'est-ce que l'économie circulaire par rapport à mon frigo, par exemple, Mehdi?
Excellent. Eh bien, l'économie circulaire aujourd'hui, comme je le disais, c'est avant tout une idée. Si je dis ça, c'est parce que j'essaie d'être un peu critique. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'économie circulaire, mais ça reste une expression générique qui, malheureusement, aujourd'hui, reste encore une coquille vide. Mmh. L'économie circulaire, donc, c'est un concept qui, par exemple, pour votre frigo, désigne le fait que, voilà, votre frigo va nécessiter des ressources. Elles vont être extraites, elles vont être réunies au même endroit, le frigo va être fabriqué, il va être transporté, il va être utilisé et il va finir sa vie. Ça, c'est ce cycle de l'économie circulaire. Ce que l'économie circulaire préconise, c'est qu'au moment où le frigo est conçu, on prenne en compte tous les problèmes liés à ces différentes étapes. Et par exemple, ça voudrait dire faire en sorte, quand on fabrique ce frigo, et c'est valable aussi pour un téléphone par exemple, de ne pas souder une certaine pièce fragile avec une autre pièce essentielle au fonctionnement du frigo.
Ce qui permet de le réparer.
Exactement. Donc c'est améliorer la réparabilité de ce produit. C'est aussi faire en sorte, par exemple, de mettre toutes les matières stratégiques rares dans des petits coins où on sait qu'on pourra les récupérer ou les recycler. C'est du coup pour ne pas gâcher la matière et pouvoir la réutiliser quand on fabriquera un nouveau frigo, pour vous ou pour quelqu'un d'autre.
Alors je suis en train de copier effectivement votre schéma. Donc à l'origine, le premier point, c'est que l'appareil est pensé dès l'origine pour sa réparation et pour son recyclage.
Oui.
Et alors pourquoi circulaire du coup? Alors dites-moi.
Parce que ça revient.
Parce que le but, c'est bien qu'on limite la consommation et le gaspillage des matières premières et donc on soit sur une sorte de cycle où, disons, on peut recycler un peu les différents éléments du cycle en restant à haut niveau de qualité, quoi.
Mais alors justement, dans votre cycle, il manque j'aimerais bien qu'on parle aussi, il faut qu'il y ait des réparateurs par contre, parce que là aujourd'hui, quand je vais acheter chez Carrefour un lave-vaisselle par exemple, j'ai pas l'impression, il y a un vague service après-vente, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des artisans derrière, vous savez, à l'ancienne. Ah, madame Michu, c'est rien, c'est juste un bouton de votre braguette qui est coincé dans le bitounio. Ça n'existe pas. Donc, du coup, l'économie circulaire prévoit quand même un ajustement, et c'est là peut-être où il y a matière à développer l'affaire et une niche d'emploi en termes de réparation et d'entretien des appareils.
Effectivement, nous, on est complètement d'accord avec cette idée. Ce qu'on dit, c'est d'une part que le circuit, justement, de réparation, l'offre de réparation, faite aujourd'hui aux citoyens français, mais de beaucoup de pays du monde. Paradoxalement, dans certains pays du Sud, on est beaucoup plus tourné vers la réparation. Hein. C'est très intéressant de voir que, par exemple, en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, on a des circuits de réparation qui sont beaucoup plus dynamiques et un tissu économique qui s'appuie beaucoup là-dessus. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi pas, sans faire un retour à la bougie, revenir à un système qui met en avant la réparation et qui nous donne... ce que nos dirigeants passent des journées à nous rebattre les oreilles, c'est-à-dire de l'emploi. On a aujourd'hui une manne d'emplois non délocalisables dans le business de la réparation.
Et en plus des emplois qui ne nécessitent pas forcément, parce que on nous dit oui, mais on va fermer une usine, mais on va créer un centre de techniciens et d'ingénieurs. Or, malheureusement, tout le monde ne peut pas être technicien ou ingénieur.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est ce qui fait que le projet est profondément politique aussi. Il a même des sortes de relents de marxisme, finalement, si on y réfléchit. Il ne s'agit pas forcément de se réapproprier les outils de production, comme l'aurait voulu un Marx, mais il s'agit là, de se réapproprier en tout cas la capacité de comprendre comment l'objet est fait, et donc d'apprendre aussi à réapprendre à le réparer.
Et les fameux tutoriels qu'on trouve sur Internet, c'est génial ça en fait pour ça.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et nous on est en contact avec plein d'associations qui justement mettent en avant des nouvelles façons d'apprendre aux citoyens à
réparer eux-mêmes en fait,
bien sûr.
Et de manière très simple.
C'est encore plus facile quand l'objet est fait pour.
Oui, c'est vrai que comment ça s'appelle, que on va revenir quelques décennies en arrière, la deux chevaux en fait, tout le monde pouvait la réparer soi-même, des pièces très simples, pas chères, facilement interchangeables, sauf que la deux chevaux aujourd'hui,
maintenant il y a la 205.
Elle est un petit peu obsolète là.
Maintenant il y a 205. Effectivement, la deux chevaux, elle était souvent citée par pour le coup certaines générations au-dessus de moi parce que elle était facilement réparable et parce que tout le monde pouvait mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, on a de nouvelles entreprises qui sont, on va dire, à la pointe de la modernité, par exemple dans le secteur des smartphones, qui nous proposent un téléphone sur lequel on a juste à retirer la coque, à l'ouvrir, à avoir une petite bombe à air sec pour faire comme ça sur les composants, et un tournevis.
J'ai entendu parler d'un nouveau téléphone où il y a des pièces, un espèce de Lego, où on ne change que les pièces qui sont en panne.
Ah oui, alors voilà, c'est ça. Alors là, il y a différents projets en fait, mais le téléphone est un bon exemple. Il y a des projets qui ont été concrétisés, et il y en a d'autres qui sont encore dans les tiroirs. Ceux qui sont encore dans les tiroirs, c'est par exemple effectivement ce Legophone, qui aujourd'hui est encore au stade du design. On a ensuite le PhoneBlox, qui a été racheté par Google, c'est ça. Et qui s'appelle maintenant Ara. C'est un projet aujourd'hui porté par Google, et qui est un téléphone modulable. Donc c'est-à-dire que quand une brique de Lego du téléphone meurt, on peut juste remplacer cette brique. Mais on a aussi d'autres types de téléphones comme le Fairphone qui est porté par des Hollandais et qui est un téléphone équitable réparable par l'utilisateur.
Et donc du coup, il y a des solutions, c'est-à-dire que pour la personne qui souhaite, qui est fan de technique, etc., la fin de l'obsolescence programmée ne rime pas forcément avec misère technologique et retour à la bougie du coup.
Bien sûr que oui, et puis bien sûr que oui. D'autant plus que c'est maintenant qu'on commence à prendre conscience de ce problème qu'on invente aussi de nouveaux appareils et de nouvelles techniques qui vont pouvoir composer avec ça. Et par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure, celle de est-ce que lutter contre l'obsolescence, c'est nécessairement refuser le progrès technique. L'avantage majeur de ce genre de technique de téléphone Lego modulable, c'est évidemment qu'on peut remplacer un Lego vieux usé par un nouveau Lego plus performant, mais sans pour autant changer l'intégralité de l'appareil.
Moi, j'aurais une question par rapport à ça, justement, c'est que est-ce qu'il ne faut pas passer par une phase, justement, où je pense encore au téléphone, si on était parti du premier téléphone, en admettant que le premier téléphone, avec sa grosse batterie qui faisait, 30 cm sur 10 cm de large, est-ce que si, à ce moment-là, on avait mis ce type de téléphone, on aurait toujours ce gros téléphone? On ne serait pas arrivé à la miniaturisation à laquelle on est arrivé à l'heure actuelle, en fait.
J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que.
C'est normal, c'est parce que c'est notre technicien qui vous la pose. Il n'est pas encore tout à fait au fait.
Non, je veux dire, si on avait gardé ce vieux téléphone, le gros, le premier.
Ouais, et qu'on l'avait mis en mode Lego avec des pièces qu'on change, nos téléphones actuels auraient toujours cette même forme, on va dire la grosse forme, et n'auraient pas évolué vers de la miniaturisation comme on trouve actuellement, quoi.
Après, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de cycle long. Hein. Le premier téléphone, bon, il a pas 1000 ans, mais il a quand même quelques dizaines d'années. Ce qui est sûr, c'est que si on avait opté pour ce mécanisme dès le début, on aurait peut-être pu s'épargner des montagnes déjà de déchets plus ou moins toxiques qu'on ne savait pas recycler. Et puis sinon, effectivement, il s'agit une fois de plus pas de refuser le progrès technique. On peut avancer, avoir de nouveaux appareils, etc. Juste pour quand on veut faire durer et quand on veut éviter de changer l'intégralité d'un appareil, qu'on puisse le faire.
Et par rapport à cette économie circulaire, est-ce que le maillon faible, quelque part, ce serait pas l'artisan? Dans le sens où, alors qu'il suffit de donner un petit coup d'aspirateur, par exemple. Non, on va changer la batterie, parce que ça me rapporte pas assez de revisser une vis, etc. Est-ce que la solution, ce serait pas justement que...
Même... Des artisans d'État, vous êtes encore plus marxiste que marxiste.
Ah
vous.
Non, pas ça, tout simplement, c'est que même le type qui est né avec deux mains gauches, soit capable, comme vous dites, comme une pièce de Lego, claque, de remplacer tout simplement telle ou telle pièce, ou est-ce que je suis un peu dans le délire idéaliste, moi qui ai deux mains droites?
Moi, idéaliste ou marxiste ou pas, je ne trouve pas du tout ça déconnant. Et je ne suis pas tout seul, puisque dans toute mon association, mais aussi d'autres acteurs qui s'investissent sur le sujet, on trouve que l'idée de ramener de redynamiser un tissu artisanal autour de la réparation, c'est pas du tout déconnant. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui va tellement vite aussi et qui change tellement souvent et une absence de... Je veux dire, on n'a pas aujourd'hui un système forcément de formation et d'éducation qui est tourné vers la réparation non plus. Donc, aujourd'hui, ça va tellement vite qu'un réparateur qui voudrait se tenir au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe, être en capacité de tout réparer sans avoir forcément une formation pointue d'ingénieur, ne pourrait pas. Alors... C'est pour ça que la priorité, c'est de mettre la pression sur les décideurs et les fabricants pour que ce soit une espèce de loi universelle, qu'un objet fabriqué soit facilement réparable et démontable.
Alors, on en parlait tout à l'heure quand je vous ai eu au téléphone ce matin, il y a déjà des alternatives. On a reçu il y a quelques années le président de l'association Envie 35, qui est une association de réinsertion. Bien de sûr. Personnes qui sont un petit peu, comment dirais-je...
Dans la précarité.
Et du coup, ces gens-là, au sein de cette association, on retape, ils ont des contrats avec les gros distributeurs, genre Carrefour, etc. Et ils vous vendent de l'occasion, du neuf, enfin on va dire, vous savez, des machines qui ont été en représentation, qui ont été abîmées durant les transports, etc. Et c'est une alternative qui marche, et j'en suis témoin, puisque je suis entièrement équipé, en tout cas dans ma cuisine, de matériel de chez Envie 35. Je viens d'acheter une machine à laver pour Noël, pouf. Alors on m'a dit, ah bah oui, mais il manque la petite plaque en bas, vous savez, qui sert à cacher le truc dans lequel on trouve toujours les boutons de braguette. Et comment... Est-ce que ce genre d'initiative a tendance à se développer aujourd'hui? Est-ce que les pouvoirs publics les aident?
Aujourd'hui, les pouvoirs publics encouragent un peu tout ce qui relève de... disons qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, là.
Tout est dans le « un peu » quand même.
Pardon?
Tout est dans le « un peu ».
Tout est dans le « un peu ». C'est malheureux, mais quand on veut lutter contre quelque chose d'aussi tentaculaire, il faut quand même mettre un peu d'huile de coude et un peu de moyens. S'il s'agit juste de faire des conférences un peu incantatoires et abstraites sur l'économie circulaire, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut mettre en place des mesures concrètes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut aller plus loin sur cette loi. On a bien compris que c'était dans la main des citoyens que se trouvait la solution, et en l'occurrence, on le pense vraiment fermement. Et l'histoire de votre cuisine équipée avec du mobilier et de l'électroménager en vie, réparée par des gens précaires qu'on a réinsérés grâce à cette activité-là, c'est une histoire qui le montre bien. C'est juste en tant que citoyen que vous avez accepté d'avoir un frigo un tout petit peu moins joli, mais qui juste a une belle histoire, a un impact social et environnemental qui est très positif, et c'est pour ça que la solution, elle est dans nos mains à nous.
Jean-Loup ?
Non, bah, je veux dire, on fait une petite pause musicale et on reprend notre conversation.
Excellent pour moi.
Eh ben, tout de suite.
Jenny!
Voilà, Palma Violette de la programmation à Roger. Un petit morceau un peu cool, ma foi.
Voire même sweet. Vous savez, les goûts, les couleurs. Hein, là.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Mehdi. Et du coup, on a parlé pas mal de l'économie circulaire tout à l'heure et des solutions. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les sur les actions qui sont menées par votre association et notamment le banc d'essai qui fait un peu penser un peu à cette asso, vous avez 60 millions de consommateurs. Et donc du coup, naturellement, je suis un garçon, j'étais directement sur les problèmes de collants. Et j'ai découvert des choses amusantes, notamment que le budget moyen de collants pour une fille qui en porte, en tout cas, c'est près de 250 euros par an.
Effectivement. Et en fait, la raison pour laquelle on a décidé, vous savez, sur les filles, est-ce qu'elles payent en plus que nous, hein, je suis un garçon aussi, donc voilà, on ne fait pas toujours attention à ça, mais il existe quand même aujourd'hui ce qu'on appelle une pink tax.
Ouais, la taxe rose.
Voilà, la fameuse taxe rose. Qui d'ailleurs est parfois sortie aussi de risques sanitaires. Vous avez pu voir ça sur les tampons.
Ouais, l'histoire de la
voilà. TVA. Et c'est vrai que les collants, ils rentrent complètement dans cette petite taxe rose et cet argent que les femmes dépensent. Et c'est vrai que acheter une paire de collants à 10 ou 20 euros pour une utilisation ou deux utilisations, c'est quand même assez lamentable. Nous, on s'est dit chez Hop que c'était possible au 21e siècle, puisqu'on est aussi sapiens, de faire des collants qui durent. Donc en fait, on s'est dit, allons-y, on y va. Et on a vraiment mis les moyens. On a commencé par faire un gros sondage et une enquête. Les gens nous ont répondu. On a traité ces informations. Et puis ensuite, on a essayé de s'intéresser aux marques. On a fait ce que nos charmants consultants appellent un benchmark, n'est-ce pas? Et puis, on a regardé ces marques et on a vu que il y avait des marques qui duraient plus ou moins longtemps, etc. On s'est intéressé au textile. Et puis, on s'est dit, on va faire ça en mode, essayer d'être un peu moderne. On va faire une innovation collective. Donc, on va essayer de se nourrir de tous les exemples qu'on a autour de nous pour faire des collants qui durent. Voilà, qui durent longtemps.
Alors, c'est marrant parce que c'est un exemple qui était cité justement dans le documentaire d'Arte. À un moment donné, après-guerre, on s'est mis à lancer des débats qui ne filaient pas. Et assez rapidement, les patrons, non, ça le fait pas, ça. Et on voyait le témoignage de l'ingénieur qui dit, ça, c'est incroyable parce que, en tant qu'ingénieur, on nous a demandé de fabriquer des choses c'est un peu à l'encontre de la déontologie d'un ingénieur quelque part. Et ça avait commencé un petit peu sur le bas. Alors donc, du coup, sur les collants, vous avez trouvé des fabricants qui fabriquent du collant qui dure?
Aujourd'hui, on est en contact avec différents. On est encore sur une phase de conception aujourd'hui, mais on est aujourd'hui en contact avec des fabricants, des spécialistes du textile et aussi des gens qui s'intéressent au textile, on va dire intelligent. Vous savez que la nature, par exemple, elle a 3,2 milliards d'années de R&D, on va dire, à nous offrir de ce côté-là. Donc, il faut peut-être s'inspirer un peu aussi de ce qui se fait dans le monde du vivant. Donc, on est effectivement en contact avec ces acteurs-là et puis on réfléchit à la conception de ce produit. Nous, on a voulu là-dessus être juste l'étincelle qui lance le projet. Donc, une fois que ce sera ensuite sur les rails, on suivra l'initiative et ça nous permettra de montrer aussi par A plus B que où c'est possible et si oui, à quel prix et comment on fait, etc. Ou alors c'est pas possible, auquel cas il faut changer les choses pour que ça le soit.
Est-ce qu'il coûtera plus cher?
Eh bien, normalement, on devrait s'en sortir pour qu'il soit à peu près dans les gammes de prix de ce que des femmes paient aujourd'hui pour leurs collants.
Et est-ce qu'il serait pas plus facile d'apprendre aux femmes à reprendre la couture et de repousser leurs collants?
Un collant, vous avez déjà essayé, vous, Jean-Loup?
Ça pour l'environnement.
Non, mais je crois que Jean-Loup n'a jamais porté de collant.
On a parlé de ça, on est super partants, nous aussi, pour tout ce qui est artisanat et couture. Malheureusement, sur des bancs en nylon, je pense que ça va être un peu compliqué.
Non, mais moi, je vous dis, j'ai porté une seule fois des collants, c'est terminé en drame, je le ferai plus jamais. Et par contre, il y a d'autres, je voulais élargir par contre sur une de vos activités qui est justement le sur le site la comparaison, c'est-à-dire qu'on peut aller quand on va sur votre site, on peut vous avez demandé aux gens de témoigner, c'est-à-dire de dire à combien de temps ils avaient estimé la durabilité de leurs produits, etc. Est-ce qu'ils jugeaient la marque fiable, etc. Comment ça se passe?
Alors là-dessus on est parti d'un constat très simple aussi, c'est que en fait aujourd'hui c'est difficile d'avoir en fait, nous, on veut vraiment arrêter d'être pris pour des guignols, que les citoyens soient pris pour des guignols sous prétexte qu'il n'y a pas assez de chiffres, c'est pas sérieux, c'est des complotistes, etc. Donc, on va dire, ok, très bien, il y a des enquêtes, il y a des analyses statistiques. Malheureusement, elles sont souvent faites, y compris par l'UFC ou 60 millions ou d'autres, partout dans le monde, d'associations de consommateurs, sur des petits échantillons. Donc, on s'est dit, on va nous aussi essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. et puis donner aussi un portail pour que les gens puissent s'orienter, discuter, se retrouver, etc. Donc, avec commentréparer.com, qui sont des spécialistes de la réparation avec qui on échange beaucoup parce que c'est des ingénieurs, parce qu'ils connaissent les produits, ils savent comment les réparer, ils savent ce qui cloche, ils démontent des produits tous les jours et ils aident les gens au quotidien. Donc, on a monté ce produit, ce site, produitsdurables.fr. Et sur ce site, on peut ou recommander un produit qu'on considère durable, ou alors déconseiller un produit fragile. Et là, en quelques mois, on a déjà presque 4000 avis sur ce site.
Est-ce que vous avez eu des retours des fabricants qui pourraient s'estimer diffamés à cause de cette histoire ?
Alors, pour l'instant, mes chers grignoux, on touche du bois. mais on n'a pas eu de problème de ce côté-là, aussi parce que on est respectueux des gens qui fabriquent, parce qu'on est bien au courant des contingences économiques qui font qu'ils fabriquent comme ça, et puis aussi parce qu'on n'est pas du tout anti-entreprise. Voilà, on fait très bien la distinction entre une grande boîte du CAC 40 qui a des pratiques délirantes, et puis des petites aussi PME qui essaient de faire les choses différemment. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous ont contactés, mais plutôt pour nous demander comment elles pourraient s'améliorer, par exemple, pour faire mieux les choses. Comment elles pourraient se mettre en avant pour montrer que elles font des efforts. Voilà. Et c'est un peu dans cette dynamique-là que, par exemple, Seb, vous connaissez Seb ?
Oui.
S'est mis un peu à essayer de changer quelque chose en rendant ses produits plus réparables. Donc bon, ça fait partie des petites, miettes qui nous apportent un peu de satisfaction quand on voit que des marques s'engagent un peu pour essayer de faire les choses différemment. Mais pour l'instant, pas de problème de diffamation, malgré une tribune quand même dans la Libération où on était assez méchant avec Apple.
C'est vrai que Apple, ils sont pas clairs. Enfin, sur quasiment toutes les marques de téléphone, quand je veux changer ma batterie, je peux le faire moi-même. Et Apple, on peut pas, si j'ai bien compris.
Apple, c'est en fait tout simplement pour nous une des pires marques de ce côté-là. Voilà, on est obligé de. Je suis désolé.
Et ça cartonne, alors que ça coûte deux fois plus cher que les restes. C'est ça qui est assez surprenant, quoi. Là,
et oui, ça cartonne. Mais quand même, là, je vais vous dire, depuis ces derniers mois, on sent une grande grogne qui monte de la part d'une certaine partie de ces ambassadeurs d'Apple, pour plein de raisons. D'abord, parce que on n'a pas parlé de ce sujet, mais il est essentiel pour nous. C'est l'obsolescence logicielle. Aujourd'hui, l'obsolescence logicielle, c'est l'obsolescence sur laquelle on a le plus gros faisceau de preuves. L'obsolescence logicielle, ça veut dire quoi ?
Oui,
ça veut
justement.
Dire quand un logiciel est mis à jour et que cette mise à jour empêche l'appareil de fonctionner correctement. Parce que l'appareil est trop vieux et que la mise à jour est trop récente, par exemple. Ou parce que la mise à jour a identifié qu'une réparation a été faite par le consommateur lui-même.
Oui, la fameuse panne, je ne sais plus comment ils appellent ça.
L'erreur 53 ?
Oui, c'est ça.
Alors voilà, l'erreur 53, en fait, justement, ça a été une de ces affaires qui a fait grincer des dents les consommateurs. En deux semaines, on a eu 300 000 signatures sur une pétition.
Ah ouais.
Et Apple, en France, a fini par accepter de réparer gratuitement et de dépanner gratuitement tous les utilisateurs français qui étaient victimes de cette erreur, tout simplement parce qu'ils avaient fait appel à un réparateur indépendant, ce qui est quand même scandaleux. Donc ça, c'est une des erreurs. L'autre chose qui quand même fait beaucoup grincer des dents, c'est que Apple, sur son prochain iPhone, veut remplacer notre beau port jack pour le casque par un port Lightning, c'est-à-dire une petite broche. Je sais pas si vous voyez.
Ah bah, un truc, il faut tout racheter le matos, c'est ça ?
Eh ben exactement.
C'est un peu comme le iPhone 5. Mais c'est ça. En plus, autant Apple, c'est vrai qu'ils ont tout inventé entre la tablette, le smartphone, etc. Mais ça fait 10 ans que il y en a qui font mieux. C'est la seule marque de téléphone. J'ai pas bien compris. Vous savez, maintenant, il y a tous des prises universelles, quelle que soit la marque.
Oui,
eh ben non, il faut acheter du Apple qui coûte un peu les fesses. Et normalement, c'est des lois européennes, ça, non, qui précisent que tous les smartphones doivent avoir un branchement universel.
Je suis pas là pour vous raconter des cracks, donc je vais pas m'improviser expert en numérique et technologie, mais ce qui est sûr, c'est que Apple est connu de par le monde entier et surtout par les experts en technologie et en numérique comme étant une marque qui encourage les systèmes qu'on appelle propriétaires et captifs. Le but, c'est de capturer l'utilisateur, et plus longtemps on l'a capturé, plus longtemps, disons, les moutons d'Apple seront bien gardés.
Et c'est vrai que ça, c'est infernal. Moi, j'ai un vieil iPod et j'arrive plus à le mettre à jour. Et d'ailleurs, c'est plus pratique parce qu'ils n'arrêtent pas de vous proposer des mises à jour qui ne sont pas forcément plus pratiques en plus. Ça, c'est hallucinant.
Que je peux vous encourager à refuser dans certains cas, si vous pouvez.
Enfin, Roger, il n'a toujours pas compris copier-coller. Donc, non, une mise à jour.
Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule, Mehdi. Mais il y en a encore parce que moi, vous savez, je suis.
Il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a des gens très bien pour qui PC veut dire papier-crayon. Il n'y a pas de
souci. Voilà. C'est vrai que je suis.
Vous avez bien résumé, Roger, là.
Je suis très papier, très crayon. D'ailleurs, je note à tout ce que vous dites. Je note.
Et bah, on peut partir du principe que c'est être pionnier, hein, que d'être comme ça. Si jamais, justement, on a plus ces métaux rares et tout ça pour faire des ordinateurs.
Ouais. Moi, ça me rappelle Astasie, ce que vous faites. Hein. J'ai l'impression, il n'y a pas intérêt de déraper, là. Il y a
non, des mais traces, je note comme ça. Après, s'il me dit, le contraire de ce qu'il a dit tout à l'heure, pouf, voilà, c'est comme voilà. Ça. Donc du coup, on a parlé de... Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les actions de groupe en justice. Comment on peut mener une action de groupe en justice, justement, contre, bah, par exemple, contre Apple, et puis ces contrats abusifs, etc., etc., etc.
Bah, aujourd'hui, on a besoin de plein de choses, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que tout n'y est pas. Tout n'y est pas au sens où on n'a pas toutes les clés en main. C'est pour ça qu'on doit aller plus loin et avoir plus de gens et avoir, comment dire, avoir un faisceau de preuves. Il nous faut des chiffres, il nous faut un faisceau de preuves, il nous faut aussi un système d'accompagnement juridique qui protège les gens qui décident de participer à tout ça. Parce que vous avez sans doute parlé déjà dans vos émissions de tout ce qui concerne les lanceurs d'alerte.
Alors justement, il paraît qu'il y a un projet de loi sur les lanceurs d'alerte qui va plus les protéger.
Oui, de fait, il y a déjà des éléments juridiques dans notre arsenal juridique français qui protègent les lanceurs d'alerte, mais c'est pas encore complètement ça. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, si on veut accompagner des gens qui sont ou des consommateurs lambda ou des lanceurs d'alerte qui sont membres d'une entreprise et qui veulent dénoncer de l'intérieur des pratiques qu'ils considèrent être des pratiques d'obsolescence programmée, on doit être en capacité de les protéger et de les accompagner de façon anonyme, etc., et de monter un dossier avec eux. Aujourd'hui, malheureusement, on a beau être très ambitieux chez Hop, on n'a pas les moyens complètement de le faire. C'est pour ça qu'on est dans une phase où on rassemble et on essaie de se fédérer avec les gens qui travaillent aussi dessus. C'est-à-dire les ONG, mais aussi les réparateurs, les ingénieurs, etc. Mais on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous alertent. Hein. Beaucoup.
Mais les actions de groupe, il n'y a pas un vide juridique en France, autant aux États-Unis, c'est établi. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire au lieu de porter plainte personne par personne, on va réunir, je sais pas, 10, 20, 30, 50 000 personnes qui vont porter une plainte collective. C'est ça
Alors, effectivement, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que voilà, moi je suis pas le spécialiste juridique de l'association. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que juridiquement, c'est moins dans notre culture que dans la culture des pays anglo-saxons. Je rappelle quand même que, par exemple, aux Pays-Bas, les citoyens ont réussi à faire une action de groupe en justice contre leur gouvernement parce que ce gouvernement avait une politique climatique qui était nocive pour les citoyens. Donc là, on parle quand même de d'étapes auxquelles nous, en France, nous ne sommes pas encore arrivés.
C'est un vide juridique ou c'est une histoire de mentalité?
Ça existe? On peut, à mon avis, c'est vraiment les deux. On a peu l'habitude, en fait, moi je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on a quand même sacrément perdu la culture de l'association et de l'association militante, c'est-à-dire se réunir en collectif pour monter un dossier en épingle. Et on a souvent peut-être eu l'illusion qu'on allait être très bien représenté par des grandes associations, des grands groupes, des grandes fédérations, ou pourquoi pas des partis politiques.
C'est vrai que ça peut, par contre, ça peut marcher au niveau local. Je vois à Rennes, qui est une ville où il y a un riche terreau associatif, on a pas mal de choses au niveau local, mais c'est vrai que vous avez raison qu'au niveau national, ça manque de relais. Est-ce que c'est pas parce que, je sais pas, normalement, l'obsolescence programmée, ça devrait motiver notre parti vert. Qu'en est-il, justement, la position des verts sur l'obsolescence programmée?
Les verts, la plupart du temps, en fait, ont été assez moteurs, hein, sur ce sujet, hein. Pour être totalement transparent, il y a deux hommes politiques un peu majeurs qui ont été à l'initiative de cette loi obsolescence programmée. D'une part, c'est Benoît Hamon, qui en avait déjà beaucoup parlé dans sa loi, avec la loi consommation, etc. Et d'autre part, c'est Jean-Vincent Placé. Donc voilà, quand il était encore chez les Verts légères.
D'accord, parce que là maintenant, il serait plutôt chez les socialistes listes, non?
Voilà, c'est ça à peu près. Donc on migre, on fait toutes les migrations qu'on veut. En attendant, je pense que...
il était à la base quand même de plein de choses.
Attendez, vous êtes à la base de plein de choses. C'est vrai que j'ai un...
Roger n'aime pas, je sais pas pourquoi, dès que vous...
Il y a des noms de politiques
placés, je sais pas pourquoi, il s'énerve là tout de suite.
Ce monsieur un petit peu carriériste, mais j'ai vu sur votre site effectivement que le rôle de Jean-Vincent Placé dans l'élaboration de la loi, et je me suis dit bon au moins il aura servi à quelque chose entre deux banquets au Sénat.
Bien sûr que oui, j'ai envie de vous dire que à bien des égards un système qui dysfonctionne et des gens plus ou moins humainement de qualité peuvent aussi faire avancer les choses, on le sait.
Bien. Donc Écoutez, allez, on va pas se fâcher avec Jean-Vincent.
Ah bah non, mais attendez, nous on n'a pas d'allégeance. Aujourd'hui, je précise que nous on n'a aucune allégeance politique. Hein.
Ah d'accord.
Et d'ailleurs, on refusera. Enfin, vous avez bien compris quel projet de société on défend, je pense, mais on refusera systématiquement qu'un homme politique vienne essayer de coopter notre initiative en nous noyautant de l'intérieur.
Et vous avez un statut associatif, hein, c'est bien cela.
Ouais, bien sûr que oui, il y a ça, loi 1901.
Écoutez, on s'écoute un petit disque et puis après, bah, l'heure tourne, on va conclure tranquillement, mais sûrement.
Très bien.
Voilà, eh bien, l'émission des Green News se termine. Vous étiez en compagnie, si vous aviez pris au moins la peine d'arriver à l'heure à l'émission, en compagnie de, comment dirais-je, Mehdi, de l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée. Nous avons parlé de tout un tas de choses, alors que nous venons d'écouter un des morceaux de l'excellente programmation Atom, Carambay Tortilla de Los Flamingos, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous écoutiez la musique, Mehdi, vous l'entendiez pas?
Bien sûr, si, je l'écoute. J'apprécie beaucoup la programmation depuis tout à l'heure, en fait.
Ah, c'est bon, gentil. C'est très éclectique. Los Flamingos, vous avez trouvé ça où, vous, Tom?
Sur Internet.
Ah, Carambay Tortilla de Los Flamingos, c'est quand même ça qui nous a pété.
Non, je crois que j'ai dû l'entendre sur FIP.
Et ça, dans 50 ans, eh ben, ça va toujours pas bouger.
Exactement. Alors justement, c'est marrant ce que dit Jean-Loup. L'obsolescence, on a parlé beaucoup de nos réfrigérateurs, nos ordinateurs, nos téléphones portables. Est-ce que ça a commencé à toucher d'autres domaines?
Ben, bien sûr que oui, je crois qu'il y a un domaine dont vous avez pu malheureusement entendre parler récemment, c'est le travail, par exemple. La question qu'on se pose nous aussi chez Hop, qui n'est pas bien sûr au cœur de notre réflexion, mais on sait qu'elle est là, et elle nous amène aussi à penser à un autre projet de société, c'est est-ce qu'en tant que travailleur, on sera bientôt obsolète?
C'est-à-dire
que, est-ce que automatisation... Pardon?
Du jetable, en fait.
Ah, ben, jetable, j'ai l'impression, malheureusement, que pour certains d'entre nous, on l'est déjà.
Ouais, trop vieux, que... trop cassé, pas assez performant, hop.
Mais alors, obsolescent, qu'est-ce qui va changer? En quoi on va être encore plus précarisé?
Ça dépend. La façon dont on réagit à ça peut dépendre et peut faire qu'on soit pas précarisé, mais libéré. Donc ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a une dynamique d'automatisation, d'algorithmisation, de robotisation, dont on le sait, elle remplace des centaines de milliers d'emplois. C'est mécanique, hein. Et d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure c'était pas le projet à la base, hein, d'être libéré du travail, ou en tout cas de pouvoir
C'est ce qu'on nous avait dit. On nous avait promis une société sans travail.
On nous avait souvent promis ça, effectivement. Les libertaires en parlaient. Dans les années 60, on en parlait. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ce travail, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, sera obsolète. Et dans quelle mesure, nous, en tant que travailleurs, on va devenir obsolète peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, face notamment aux machines et aux algorithmes.
Mmh. Et je vous parle même pas de la, comment dirais-je, l'imprimante 3D.
Ben bien sûr, mais une fois de plus, dépendant de la façon dont on se saisit ou pas, nous, citoyens du sujet, on pourrait y voir une opportunité de se libérer un temps considérable, de se réapproprier pour le coup les moyens de production, puisque l'imprimante 3D, c'est quand même aussi la promesse de ça, et puis d'embrasser un mode de vie peut-être un peu plus tranquille, un peu plus posé, un peu plus respectueux de nos proches et de l'environnement.
C'est-à-dire que du coup, l'imprimante 3D, moi qui me fait un peu flipper, parce que vous imaginez le nombre de tourneurs, le nombre de poinçonneurs, etc., que ça va foutre en l'air, me permettrait par exemple de réparer ad vitam aeternam mon même, grille-pain, frigo, etc., etc. La pièce tombe en panne, pouf, je la refabrique avec mon appareil.
Exactement. Aujourd'hui, on en est toujours à un stade d'expérimentation, notamment sur les matériaux, hein, parce qu'il faut pas oublier que pour fabriquer des choses, il faut quand même toujours des matériaux. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un chiffre bête, mais sur 70 des métaux les plus utilisés par un pays comme les US, on en a trouvé qu'il y en avait 67 qui s'épuisaient très rapidement sous quelques dizaines d'années et qui étaient non remplaçables. Donc il faudra trouver des matériaux qui nous permettent de faire tout ça. Voilà. Il y en a certains qui disent que ce sera le champignon. Si jamais ça vous intéresse.
Ou les insectes.
Et j'ai entendu parler de mémoire sur du papier, sur de la cellulose ces derniers temps.
Oui, aussi, oui, c'est vrai.
T'as entendu parler de ça, c'est dingue ça, avec ça. Oui. Et les autres qui foutaient de ma gueule avec mon papier, vous voyez, on y revient.
Et vous devez consommer à peu près 20 hectares de la forêt amazonienne.
Je ne sais pas combien de centrales nucléaires tournent pour votre ordinateur.
Le papier, vous croyez qu'il se fait tout seul?
Mehdi n'a pas encore raccroché, on ne peut pas quand même se fâcher quand même. On ne va pas se fâcher.
Non, mais en tout cas, Mehdi vous dira que si vous voulez vous intéresser vraiment à ce qui pèse en termes de bilan carbone, intéressez-vous aussi à ce numérique dont on nous dit qu'il est vert et qu'il n'est pas si vert que ça.
Et est-ce que c'est pas la technicité, en fait, on parlait justement d'obsolescence de l'emploi, c'est vrai que le travail à la chaîne, on n'en a plus besoin aujourd'hui, ça va permettre à des gens sans qualification hors du boulot, mais est-ce que ça a réellement volé du travail ou est-ce que ça a spécialisé le travail? Parce que le robot, il faut le concevoir, donc des ingénieurs, il faut fabriquer, des ouvriers spécialisés, attendez, c'est pas vous que je parle, c'est Amélie. des ouvriers spécialisés parce qu'il faut même contrôler. Il faut une maintenance, donc ça veut dire une certaine technicité quelque part. Est-ce qu'on n'est pas dans une société justement où tous ceux qui sont un petit peu les laissés pour compte, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de qualification particulière, n'ont plus leur place, alors qu'il y a 50 ans, eh ben, ils travaillaient à la chaîne, ok, pénibilité, etc., mais au moins ils avaient un salaire.
Il y a cette fameuse idée de destruction créatrice, vous en avez entendu parler peut-être?
J'apprends les choses, c'est pour ça que je pose des questions naïves.
Il y a un économiste qui est passé à la postérité pour avoir parlé beaucoup de cette destruction créatrice. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on détruit quelque chose, ça va créer quelque chose ailleurs d'équivalent en termes d'impact social, économique, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive un peu dans une mondialisation à bout de souffle où la destruction ne crée plus de choses. Et c'est-à-dire que les laisser pour compte, justement, c'est difficile dans un contexte tendu, un marché mondialisé, des frontières ouvertes et un coût du travail avec des différences hallucinantes, de les recaser. Aujourd'hui, à ce que je sache, on a tendance souvent à penser que quelqu'un qui a 45 ans ou 47 ans perd son emploi, va avoir du mal à retrouver, ou qu'on va avoir du mal à le reformer, à l'accompagner, etc.
Et parallèlement, on retarde le départ à la retraite.
Voilà, c'est ça, évidemment. Donc tout ça, ça participe du même problème. Et oui, effectivement, il y a une création, mais il y a aussi une destruction. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas voir systématiquement, comme le font les grands économistes, les choses en termes de macroéconomie. Il y a des vies humaines dans ce mixeur et il faut les accompagner, les protéger, quoi.
Et l'intérêt, justement, on parlait tout à l'heure d'envie et des associations qui travaillent dans ce genre-là, elles permettent justement le réemploi, la remise en train, on va dire, de tas de gens qui sont, tout le monde ne veut pas être ingénieur ou technicien.
Et l'apprentissage d'une technicité, tout simplement.
On a ce même problème pour l'agriculture, comment dirais-je, on voit bien que l'agriculture productiviste telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui emploie peu de gens, utilise des merdes et fabrique de la merde.
Exactement. Et en même temps, c'est ce qu'on a demandé aux agriculteurs après-guerre, quoi.
Voilà.
Il faut aujourd'hui participer tous ensemble de ce basculement-là et sans pour autant être idéaliste ou angéliste, se dire qu'on est beaucoup à faire partie de la solution et que, à part ceux qui veulent nous mettre un peu la tête justement dans cette merde-là, Il y a quand même beaucoup de gens qui participent de l'invention de solutions. Et ce qu'on pense, ce sera enfin un peu peut-être les derniers mots avec lesquels je vous embêterai, ce qu'on pense chez Hop, c'est que toute justement cette lutte contre l'obsolescence programmée, qui veut réclamer une meilleure consommation, plus responsable et plus respectueuse de notre environnement, elle est porteuse d'un espoir, d'un projet de société formidable, où on pourrait se retrouver différemment, échanger différemment, sortir d'une relation de défiance qu'on a envers tous ceux qui produisent, qui mettent sur le marché, qui nous vendent des choses. Il y a des tas de chiffres là-dessus sur la défiance des consommateurs français à l'égard de ceux qui produisent et on les comprend. Tout ça, c'est porteur d'une promesse qui est très très belle et c'est un combat qui mérite d'être mené.
Et alors moi qui suis un peu le pessimiste de l'histoire, est-ce que c'est pas un peu compliqué dans le sens où la génération qui arrive voulait offrir un vieux jeu en bois, un vieux jouet recyclé ou le pantalon du grand frère qui va au petit frère comme c'était dans le temps, ça passe plus quoi là.
Bah, bien sûr, mais alors bon, sans vouloir faire le Guinness Book du pessimisme, la génération suivante, elle sait aussi, il y a beaucoup d'études qui le montrent hein, sur les nouveaux systèmes de valeurs ou les émergences socioculturelles, elle sait aussi que le climat c'est pas pour rigoler, que les pollutions liées au diesel, aux particules fines, c'est pas pour rigoler, etc.
Ouais, je crois qu'elle est consciente qu'elle va en chier.
Pardon ?
Je crois qu'elle est consciente qu'elle va en prendre plein dans la gueule.
Je pense qu'elle est effectivement consciente. Donc quand on lui expliquera qu'elle doit faire quelques compromis sur sa consommation pour vivre plus sainement et avoir des chances surtout de garder une planète habitable, parce que, enfin voilà, je veux pas être catastrophiste, mais on parle bien de ça quand même. Je pense qu'elle saura faire ce compromis-là et voir un peu tout ce qu'il peut y avoir de positif dans
ce. Et je voudrais pas jouer le super pessimiste de plus que tout le monde, mais je pourrais même vous dire qu'à la limite, elle aura peut-être même pas le choix.
C'est ce que j'essayais de dire, en fait. Je parlais tout à l'heure du mur qu'on avait heurté. Il est avant tout un mur de ressources. Et ces ressources-là, quand je dis qu'elles sont en voie d'épuisement, elles le sont vraiment. On parle de décennies. Vous avez peut-être suivi l'actualité du cuivre, par exemple. La raison pour laquelle il y a des vols de cuivre sur les chantiers SNCF, c'est pas parce que tout d'un coup, on s'est dit « Ah tiens, pourquoi pas du cuivre ?» C'est tout simplement parce qu'il s'épuise et tout ça. Voilà, la Chine aujourd'hui produit 90% de nos terres rares qu'on importe pour fabriquer nos éoliennes, nos smartphones, etc. Le jour où ça change de ce côté-là aussi, où la Chine décide de garder ses ressources, par exemple, pour répondre à la demande intérieure, ou décide tout simplement qu'elle a trop exploité et qu'il n'y en a plus, ou que ça devient trop cher, on se retrouve face à un mur. Donc oui, on peut pas éviter, et sans doute que les générations à venir n'auront pas le choix.
Bah, tant mieux peut-être, parce que moi, toujours le pessimiste...
Ah, il essaie d'être plus pessimiste encore jusqu'à la fin.
Non, mais,
où est la corde? Où est la corde?
Si je peux parler, Mehdi nous donnera une note d'optimisme à la fin. Moi, quand je discute avec des ados qui sont très conscients, réchauffement planétaire, etc., patati patata, est-ce que tu es prêt à renoncer à la télé que tu as dans ta chambre? Non. Est-ce que tu es prêt à utiliser moins ton portable? Non. Et c'est ça qui me désespère.
Il y a la viande aussi. Il faudrait manger moins de viande.
Les jeunes ont conscience, pareil, vous proposez un kebab pourri à un ado, ah je oui, peux vous dire oui, qu'entre une viande... Et c'est ce côté un petit peu désespérant qui me désespère, d'où le terme, où ils sont conscients du problème, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont enlevé le... C'est le problème des autres, quelque part.
Je peux caler dans ce sens-là. Je pense que c'est malheureusement un autre problème sur lequel j'ai travaillé par ailleurs, à savoir les modalités d'engagement de la jeunesse. Aujourd'hui, on est dans un monde qui, je pense, a pâti vraiment, vraiment beaucoup de siècles, de décennies de dépolitisation. Et on nous a plutôt appris à consommer et à consommer aussi de la connaissance et une éducation qu'à s'organiser collectivement pour essayer de se battre pour ce qu'on estime juste et qu'à réfléchir sur la façon dont notre monde fonctionne. Bon.
Et ben, en tout cas,
à partir de ce moment-là, ça me paraît effectivement peu probable qu'un adolescent puisse spontanément décider que, après tout, puisque tout fout le camp, pourquoi pas juste rester devant la télé et kiffer un peu la vie avant que tout parte en quelque chose.
Non, ça c'était les nos futurs, c'était les années 80 nos futurs. Moi je dirais plutôt...
À bien des égards, on peut se demander si aussi une partie de la génération qui arrive n'est pas un peu dans ce nihilisme là.
Peut-être.
Ils sont incapables
mais
de se
moi je dirais que quand même s'il y a au moins une raison d'espérer, c'est le fait que vous existiez. Si vous existez, c'est pas par hasard, et je pense que vous êtes pas seul, vous-même vous avez dit que vous avez quand même énormément de contacts. Et donc du coup, moi j'aimerais mieux conclure sur une note un peu optimiste, ne serait-ce que parce que...
Ça nous va mieux chez Hop.
Voilà, et ne serait-ce que parce que vous êtes là, et je trouve que l'acronyme de HOP est là aussi pour peut-être nous filer la pêche, et puis tant pis, on aura toujours essayé.
Et c'est HOP, c'est pas YOP.
Ah non, c'est bien
hop,
hein, on est d'accord.
Alors, oui, on a dit hop depuis le début, mais c'est l'autre qui est sourd.
Non, non, mais pour pas que les gens, pour pas que les gens confondent. Écoutez, Mehdi, on doit vous quitter, on se maintient dans le morceau, vous ne raccrochez surtout pas, oui. Et puis on mettra tous les liens, les machins, les bidules, les trucs mûches sur c'est Internet, et même peut-être sur le cloud, parce qu'il paraît que ça consomme à donf.
Non, non, pas de cloud, pas de cloud.
Merci de votre intervention, c'est là.
Merci, merci beaucoup.
On met un petit 10, vous raccrochez pas, un petit 10, c'est parti, salut, à la semaine prochaine.
À très bientôt.